Bah oui, elle prend mieux y'a que ça, le second ça existe pas.
Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Go ahead.
Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Make my day.
Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous?
Le second, c'est un con.
Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Je m'appelle Daniel Andriev et de l'autre côté du poste se trouve l'ex-député Stéphane Boulet.
C'est ça, j'ai perdu mon job du jour au lendemain.
Alors, bah, en fait, parce que j'essayais de. En fait, dans ma tête, je me disais, il faut que je fasse un truc avec 10 sous, mais en fait, ça marche pas. Donc, je vais juste dire ex-député.
À 10 sous, le footballeur ?
Voilà.
Tu peux faire ça à la rigueur.
Stéphane, on avait une YouTube avant.
Ah oui, c'est vrai.
Je te demandais, comment va ton ministre de tutelle ?
Oui.
Et ton ministre de tutelle, il a changé très souvent ces derniers temps.
C'est ça. Ben là, j'en ai plus. A pu.
Et là, honnêtement, je pense que t'as quand même vraiment des chances d'avoir un bouffon dans un mois.
Ah, c'est...
Un bouffon, si ce n'est pas vraiment un connard.
Ouais, c'est ça, c'est que là...
Comparé aux autres.
On est vraiment dans une situation, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, on vannait sur les ministres de l'éducation qui se succèdent les uns après les autres, et puis là, bah, de toute façon, j'en ai plus, et puis effectivement, s'il faut, la prochaine fois, il faudra faire chanter « Maréchal, nous voilà » aux enfants à l'école, donc si tu veux, voilà, c'est l'avenir n'est pas forcément très radieux.
Il faut que... Pas de politique dans ce podcast, bien sûr.
Ah non, jamais.
Pas de politique, de toute manière, les films, ce n'est pas politique.
Les films, ce n'est pas politique.
Et ça, alors, voilà, tu sais quoi, j'ai mon pote qui travaille à la loc d'un certain jeu japonais, et je l'embrasse très fort parce qu'il écoute Super Ciné Battle, et sa maman, elle regarde Sumimasen, ce qui me touche encore plus. Et parce que c'est pas genre c'est sa maman quoi, tu vois, c'est pas genre elle a pas de lien avec ça, tu vois. Mais et donc il me disait regarde, il m'a envoyé un youtubeur américain qui est très 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 connu, genre le deuxième, c'est genre vraiment le youtubeur jeu vidéo le plus gros. Alors gros en France c'est gros, mais aux États-Unis ça veut dire gigantesque, hein. Et à un moment il regarde le trailer de MGS3.
Ah oui, mais je l'ai vu la vidéo.
Et il dit oh là là, j'espère que dans le remake ils vont pas mettre de la politique. Et là, Amandine, j'essayais de lui expliquer le truc, pourquoi c'était drôle. Je lui disais, MGS3 se déroule pendant la crise de Cuba, dans la paix des cochons, genre littéralement à l'endroit le plus politique du globe à ce moment-là.
Non, mais c'est incroyable, parce qu'en plus de tous les MGS, il prend celui qui a le contexte politique le plus littéral et le plus premier
oui,
degré. Enfin, c'est,
oui,
c'est ça
pas de,
plus
y a,
dingue.
Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est les communistes, c'est vraiment c'est celui-là où les communistes, c'est celui-là, genre, ils ont tous un accent, les méchants.
C'est ça, quoi.
Et alors, le seul truc où il y a de l'ambiguïté, c'est que les gentils sont pas si gentils. Enfin, c'est ça le propos de MGS. Ouais.
Oui, et puis t'as toute une réflexion effectivement sur la manipulation de la peur et le poids des armes nucléaires qui est quand même le, on va dire, un des grands thèmes qui va traverser tous les MGS, quoi. Mais à nouveau ancré dans un contexte politique justement de comme tu l'as dit de guerre froide et de manipulation. Enfin, c'est très drôle de ne pas vouloir de politique dans un Metal Gear Solid, quoi.
Je te dis, dans Sumimasen, on a parlé du prochain Assassin's Creed en disant, bon, bah, c'est de la fiction, hein, tu sais, l'histoire, ça reste quand même, tu vois, genre, D'Artagnan a existé, mais tu vois, il n'a pas fait tout ce qui est genre.
Oui, il n'a pas fait tout ce que Dumas a dit, ouais, c'est ça.
Il est... Non, oui, et puis ensuite, les adaptations, bah, il n'est pas monté dans un bateau qui vole dans la version de Paul Anderson, tu vois. C'est... Parce que c'est vrai, la version de Paul Anderson, je te le rappelle, c'est la version la plus proche de Final Fantasy qu'on ait eu en live.
C'est vrai, tu l'as déjà dit.
Bon, après tout ça, on va essayer de pas trop charger la barque, mais juste pour rappeler le contexte, on était ensemble sur Internet en commentant les résultats, et moi j'étais allé voir un film.
Oui.
J'étais allé voir un film, et dans le groupe de conversation, je reviens et je vois 150 messages. Je me suis dit, ouais, il s'est passé un truc. Il y a l'un de nous qui s'est senti mal ou quelque chose comme ça. Et je vois 50 messages, je vois dissolution au milieu. J'ai fait, c'est pas possible. Et juste après, on a enregistré un After Eight. On était dans un état second. Mais tu sais, j'ai fait l'After Eight comme si j'avais vécu pas un deuil, mais tu sais, comme si je m'étais fait tabasser et qu'il fallait que je fasse l'émission.
Que
il
tu remontes sur le ring.
Voilà. Il fallait que je remonte sur le ring tout de suite, quoi, pour pas se laisser abattre. Parce que les autres jours, je vais chercher mon fils à l'école, je suis genre, les gens me font, ça va, je fais, Ah là là. Bon, voilà. Mais en tout cas, pour cet aparté politique. Donc, tu ne connais pas ton futur. Mais t'es vraiment dans l'incertitude la plus totale, hein, parce que.
Ah, ben non, mais oui.
Au moins, avant, on pouvait deviner quel bouffon t'allais avoir.
Oui, non, mais voilà. Mais là, effectivement, disons que le champ qui s'ouvre à nous, est plein de possibilités extrêmement différentes.
Ouais.
Et voilà. Il y a certaines qui vont me faire étrange.
Alors, extrêmement différente, et en sachant que t'es extrêmement proche de la frontière, toi. Toi, t'es. Nous, à part, si on fait des barricades autour de Paris, hein, autour de l'île de France, hein, je prends toute l'île de France, vous êtes nos poteaux. Ah là là, bon, bah écoute, on va essayer de faire un podcast sans politique.
Oui, sans politique. Et d'ailleurs, à tel point que ce matin même, j'ai reçu dans ma boîte mail professionnelle une petite lettre du ministère me rappelant l'importance du devoir de réserve et qu'on avait le droit de participer à aucune manifestation publique en soutien à un candidat ou autre. Quoi.
Non, mais t'as pas le droit de faire à titre privé, mais attends, mais t'es un citoyen comme un autre.
Alors, bien sûr que si, en fait, mais je comprends pas trop le truc, c'est qu'effectivement, le devoir de réserve, à un moment donné, si tu vas par là, c'est que non, tu devrais même plus, en fait, participer à une manifestation syndicale ou un truc comme ça, tu vois, à un moment donné.
C'est débile, hein, c'est vraiment oui,
c'est complètement absurde, quoi.
En plus, pas vouloir que la politique rentre dans le cadre scolaire, c'est genre, c'est un vœu pieux, quoi.
Oui, ça vieux plus, mais le devoir de réserve a son intérêt dans le cadre de l'exercice de tes fonctions. Mais à un moment donné, effectivement, enfin.
T'es pas enseignant tout le temps.
Non. Et puis même.
T'as une vie amoureuse aussi. T'as le droit de tomber amoureux. T'as le droit.
Non, mais à un moment donné, t'as le droit quand même effectivement de manifester, de participer à des meetings, des choses comme ça, quoi.
Ah oui, non, c'est la base même de la démocratie.
Mais visiblement, voilà, au ministère, ils ont un petit peu paniqué. Ils ont fait, oh, s'il vous plaît, non. Voilà, c'était assez drôle.
Est-ce que la déchireuse que je t'ai vendue, est-ce qu'elle marche bien? Tu sais, le truc qui se transforme en petite lamelle et après tu peux ensuite faire des trucs pour allumer le feu.
Ça marche pas mal.
Bon, bah super alors. On n'a toujours pas commencé. Les gens qui viennent pour la première fois sur ce podcast, ils ne savent pas du tout de quoi on va parler. C'est le moment de leur dire. Il s'agit de Super Ciné Battle et on classe tous les films de l'histoire de l'humanité dans ce qu'on appelle la liste ultime, le marbre. C'est bon? J'ai bien résumé?
C'est ça, exactement. Afin d'établir une sorte de liste qui s'approchera le plus possible de la vérité ultime du cinéma.
Voilà. En sachant que, bien sûr, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Vous nous envoyez des listes, 3 films par liste, et avec un titre, c'est pas mal pour donner une thématique. Et vous l'envoyez
par exemple, exemple de thématique, tu pourrais dire les petits chauves qui se barricadent, tu vois. ça pourrait être un truc comme ça.
Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup dans les années 50, puisqu'on va faire les années 50.
Mais je vous donne une idée de thématique pour les prochaines émissions, voilà.
Qui y a comme petit chauve dans le cinéma? Mais tu sais quoi, ça va être...
Joe Brenner, il était pas très grand.
C'est vrai qu'on enregistre... Alors, c'est vrai que tout peut changer à tout moment, mais au moment où on enregistre, Bidule, il est encore dans son bureau, là.
Oui, il est toujours dans son bureau.
T'as vu la vidéo?
Oui, j'ai vu.
Est-ce qu'il faut pas être fou?
C'est vraiment sexant. Les meilleures vidéos, ce sont les gens qui ont repris ces vidéos-là et qui ont mis soit le générique de Curb Your Enthusiasm ou soit le générique de The Office par-dessus.
Parce qu'il s'assoit au bureau comme dans le générique.
Comme dans le générique, donc c'est parfait.
Pour faire genre, je travaille. Alors qu'en vrai, les hommes politiques, c'est pas du vrai. Et surtout qu'il y a un truc que les gens s'imaginent pas trop, mais. Enfin, peut-être le calendrier politique est tel qu'il est, c'est que quand il y a une dissolution ou quand il y a une élection, on tombe sur il y a trois mois de blanc, c'est-à-dire il y a le mois d'élection et ensuite ils rentrent vraiment en fonction à la rentrée parlementaire. Là ils sont en vacances, hein, en vrai.
Oui, c'est ça.
Ils sont en vacances, bien sûr, ils doivent faire des campagne et tout ça, mais en vrai lui il va pas être dans son bureau visiblement.
Oui, lui, visiblement, il a pris littéralement ses quartiers d'été.
Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Moi, si j'étais un de ces opposants, mais dans le même parti, hein, c'est vraiment un jeu de l'esprit, parce que c'est pas ce que je suis. Mais genre, je suis Laurent Wauquiez. Mettons, je suis Laurent Wauquiez. J'ai choisi le plus beau gosse, hein, tu vois.
Rends les subventions.
Commence par là. Attends, je vais me teindre en gris pour avoir l'air plus vieux. Alors, c'est vrai, il paraît qu'il s'éteint en gris pour avoir la plus.
Ah oui, pour faire plus sérieux, bien sûr. Bah, de la même façon que qui met son espèce de doudoune, c'est pour c'est son image à lui de ce que c'est que la France d'en bas, tu vois.
Ouais, bien sûr. Ouais, on monte à Paris, ouais, c'est ce genre-là. Ouais. Voilà. Mais bon, imaginons, je suis Laurent Wauquiez et je veux me débarrasser de ce mec ou moi qui quitte le bureau, hein, genre lui, et il veut pas. Moi, ce que je fais, c'est dans le Sobedo que je fais livrer ou genre il va à un moment faire Uber Eats, à un moment il va avoir une pizza ou un truc comme ça. Tu mets un diurétique très puissant. Bon, ça va le faire sortir, c'est pas possible.
Ah non, mais quand même, la meilleure séquence de tout ce passage-là, c'est l'arrivée de Valoche, en fait. Valoche qui arrive et qui se remonte les bras comme Henri Cavill.
Tu sais, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé. J'ai pensé qu'elle armait ses bras comme Henri Cavill dans Fallout.
Oh putain. Et en plus, ça, cet épisode-là, parce que pour parler cinéma, cet épisode-là, il nous arrive juste après la sortie de Sous la scène.
Oui.
Où tu as la meilleure Valérie Pécresse de cinéma de l'histoire.
Qu'est-ce qu'elle est bien, la Valérie Pécresse de Sous la scène.
Elle est extraordinaire. Je crois qu'elle fait tout le film, en fait.
On n'a pas encore commencé, mais on en a parlé dans After Earth, mais moi, je veux bien ton avis, puisque il y en a un qui aime plus le cinéma que l'autre. Hein. Je ne veux pas dire qui. Entre Benji et toi.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que tu as aimé Sous la scène?
Alors, je résume comme ça. C'est, j'ai aimé ce que j'ai vu, mais je ne pense pas que ce soit un bon film. Voilà, c'est un film très, très fascinant dans ce qu'il dit de ses auteurs, en fait. Un peu malgré eux, je pense.
C'est pas le meilleur Xavier Gans, déjà.
Non, déjà, c'est pas le meilleur Xavier Gans. Est-ce que c'est le meilleur Yannick Dahan? Je suis pas sûr non plus.
Ah merde! Comme je le connais, je peux plus dire.
Droit de réserve.
Et en sachant que j'ai mis 3 étoiles sur Letterboxd, hein, je ne suis pas un hater, hein, vraiment.
Bah, alors, moi, en fait, voilà, moi, j'ai mis la note parfaite, qui est un 4 sur 10, mais sélection, tu vois.
Ah. Je les connais à Gamekult, j'ai essayé d'apposer ça, ça marchait pas. Ils étaient pas trop dans mon game.
Non, mais c'est un film, en fait, qui a un mérite, c'est qu'il finit beaucoup mieux qu'il ne commence, déjà. La fin, c'est vraiment la meilleure partie du film. Et il y a des trucs, en fait, qui m'ont vraiment fait rire, et pas que aux dépens du film. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je trouve qui fonctionnent pas du tout, d'autres trucs qui sont volontairement comiques et qui, je trouve, fonctionnent. Et notamment leur Valérie Pécresse, enfin, leur Valérie Hidalgo ou Anne Pécresse, enfin, je sais pas trop ce qu'ils... Mais c'est...
Y a leur Dati, elle est un peu Dati, un peu sur les bords.
Un peu Dati sur les bords. Donc, voilà, c'est un film, je pense, que j'ai apprécié parce que j'aime le cinéma un peu déviant et un peu sans contrôle, on va dire.
Le protagoniste, et on l'avait déjà vu dans
Pharaon. C'est Nassim Liès, ouais.
Nassim Liès, qui pourtant on a vu Nouveau Riche et En passant pécho, je pensais pas qu'il aurait cette carrière-là et j'aimerais le voir dans d'autres films. Il est vraiment bon, ce mec. Après, je trouve que lui, il le joue bien. Mais tout le début où ils sont les flics gentils qui connaissent tous les clochards par cœur et par leur prénom. Ah, c'est Jean-Louis.
Et surtout qu'ils vont nourrir les clochards et les aider. Enfin, genre, c'est pas la France de Darmanin.
Non, je crois qu'ils ont pas eu le mémo. Hein. C'est sans parler des lesbiennes, des écologistes lesbiennes à cause de qui. Tout arrive, hein. C'est vraiment.
Voilà, c'est ça. C'est... Tout est de leur faute, voilà.
C'est franchement, on a l'impression que c'était CNews, hein. C'était.
mais c'est une fable écologique de droite, et je pense que rien que pour ça, il y a pas énormément de représentants de ce sous-genre, en fait. Tu vois, il y a vraiment.
Mais tu crois pas si bien dire. Bah alors, on va parler aux vraiment vieux, et pas de politique dans ce podcast. Mais dans les années 90, il y avait deux groupes écologiques. Il y avait le groupe de Brice Lalonde,
évidemment.
Il y avait Brice Lalonde et Antoine Wechter. Et Antoine Wechter, il était plutôt écologie de un peu droite.
Ouais,
et Brice Lalonde, il faisait un peu l'écologie de gauche.
Ouais, c'est vrai. Et ben voilà, ben on est revenu à ça.
Il y en avait un qui avait un postiche, et l'autre non, il assumait un peu plus. Et c'était vraiment l'écologie, Calvici, hein, c'était vraiment ça. Mais encore une fois, faut savoir un truc, c'est que pendant des années, les années 90, les gens se moquaient des écolos. Hein, c'était vraiment oh là là. Je me souviens qu'il y a un gars dans ma classe, et j'étais en cinquième, tu vois, ou sixième, il m'a dit les écolos, c'était les années électorales. Il dit les écolos, c'est... Et moi je lui dis les écolos, gna, gna. Et lui il me fait les écolos, c'est des cons. Ils voudraient arrêter la voiture à Paris parce que ça fait de la pollution pour les arbres. Et genre, Il a dû me dire ça en 90, tu vois. Et tu sais quoi, aujourd'hui, tu me dirais interdire la voiture. Pas interdire, mais vraiment reculer fortement. Après avoir connu les années Covid où il n'y avait pas de voiture dans Paris, tu vois, genre, si on faisait 2 mois sans pourvoir, à nouveau. Genre pour
histoire de,
genre qu'on respire un coup à nouveau, voir. Et alors, je dis ça, respirer. Si vous l'entendez, si vous êtes un fidèle du podcast et que vous vous rendez compte qu'on a toujours pas parlé cinéma à plus X temps, j'ai une voix un peu différente. Je suis au bout de ma vie, de manière respiratoire. Je suis en apnée parce que c'est le pollen. Conséquence de la pollution de l'air, hein, soit entendu. Et donc, du coup, j'ai choisi des films dans la liste de ce soir, qui sont, ce soir, on enregistre la nuit, ça va être du tout cul pour Stéphane, et genre, je vais poser les pieds sur le... Et alors, on n'a même pas dit, mais il faut nous envoyer 3 listes, tout ça, supercinébattle@gmail.com, ça, bon, ça... Je pense que si tu nous as écouté jusque-là, si tu t'es tapé notre critique de Sous la scène. Film. Mais moi, ouais, j'ai vraiment pris du plaisir. Hein.
Mais non, y a
c'est un pas truc, un film que je recommanderais.
Non, pareil, voilà. C'est pas un film que je recommanderais.
Mais tu vois, mais pour le cinéma que j'aime.
À un certain degré, j'ai réussi à l'apprécier. Voilà. Je le dirais comme ça.
Il y a des moments où c'est vraiment rigolo. Et surtout, en plus, c'est vraiment. Tu vois, on parle de produit de plateforme. C'est vraiment un produit de plateforme.
Oui, non, complètement. Oui, complètement.
C'est genre, c'est Netflix. Et c'est ce que tu, c'est à peu près le c'est du valable pour du Netflix, quoi.
Oui, non, mais mais par contre, c'est drôle que ce film-là, finalement, se devient un tel phénomène aux États-Unis, en fait. Les Américains, ils kiffent. C'est un truc de fou, quoi.
Et je crois que c'est l'exotisme, c'est Emily in Paris, tu vois, les pains au chocolat. Moi, j'ai vu Bad Boys, mec.
Ah, je l'ai pas encore vu. Alors, il paraît que c'est pas si mal, mais.
C'est mieux que le 3.
Alors. Ouais, ok, d'accord. Merci.
Et alors, de facto, c'est mieux que le 2, parce que le 2, tu sais que je ne l'ai pas vu.
Tu ne l'as pas vu en entier.
C'est-à-dire, pour les nouveaux qui arrivent et tout, dans le lore Super Ciné Battle, Bad Boys 2 de Notre République, j'arrive pas à le voir au-delà du moment où la piscine pète. Voilà. C'est-à-dire, il y a une piscine en extérieur, et genre, la piscine pète, et l'eau, elle arrive, et son jardin, il est foutu en l'air. Et là, le pote, il se moque de son genre. Et je trouve pas ça drôle du tout. Et c'est le moment où mon cerveau dit stop. Et les gens m'ont dit, t'as pas vu la favelas.
Non, t'as pas vu, ouais.
Et je ne sais pas ce qu'est la favelas, mais ils ont l'air de me vendre ça comme si c'était la ligne verte, mais sur des roues, quoi.
Non, mais alors, la favelas, littéralement, c'est Michael Bay qui a vu Polystory et qui s'est dit putain, je veux faire pareil.
Mais c'est fou, hein, c'est un vrai cinéphile.
Il regarde les
frères Cohen et il se dit ça c'est facile. Il faut que je prenne
Boucher,
faut que je prenne Buscemi, faut que je prenne tous les comédiens habituels. John Turturro. Et mais si tu dois, comment il s'appelait le mec dans Pain and Game
Alors il y avait Wahlberg, il y avait
Non, c'est celui qui se fait prendre en otage.
Ah mais oui, Chaloub.
Chaloub, ouais. Chaloub aussi.
C'est quoi son prénom, c'est
Je vais l'appeler Albert dans le doute.
Non mais c'est pas Tony Chaloub ou un truc comme ça.
C'est Tony Chaloub.
Tony Chaloub, c'est ça.
J'étais pas loin avec Albert. Mais
oui, c'est exactement pareil.
Mais oui, c'est vraiment, il a envie de faire pareil et je peux comprendre et tout. Moi, j'ai vu un film de plateforme aussi et je peux te spoiler. C'est nul à yèche. Et ça sort bientôt. Ça sort peut-être au moment de la sortie de ce podcast ou peut-être dans 2 jours. Et tant pis pour les NDA. Mais j'ai vu le film d'action avec Inès Reg. Et tu vois ce que c'est?
Oui, je crois qu'il est sorti depuis 10 jours en fait.
Ah, il est sorti depuis 10 jours.
Ouais, c'est
Les Infaillibles.
Ah non, c'est pas celui-là en fait.
Ah, il sort le 20 juin. Il sort le 20 juin. Bon,
parce que c'est parce qu'il y avait un autre film de plateforme avec un film d'action avec une meuf là.
Oh mec, c'est pas possible Les Infaillibles. C'est pas possible Inès Reg. Tu sais, elle est censée jouer une badass flic. Elle n'a jamais tenu une arme, ça se voit. Elle sait pas. Et le mec là qui joue le rookie, Kevin, mais machin. Et en fait, j'ai compris que c'était le mec, c'était Kevin, tu me mets des étoiles dans les yeux. C'est le même Kevin, en fait. Et en fait, ils se sont séparés dans la vie, mais il est scénariste du film. Ça se voit. ça se voit. C'est je te dis, je regarde Jérôme qui a mis, il a mis une étoile et demie. C'est dire
si même Jérôme Lachasse a...
c'est dire si c'est catastrophique, quoi.
Si même Jérôme Lachasse a rien trouvé à sauver, c'est que c'est compliqué.
Ah ouais, non, c'est vraiment, c'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Sachez qu'à la fin de ce podcast, on fait aussi des recommandations.
Oui, des vrais recos.
Des vrais recos, des trucs qui nous tiennent à cœur, ouais. Mais alors, du coup, on va peut-être se mettre en route, sauf...
Oui, dans les années 50.
Dans les années 50, sauf que sur 37 films, est-ce que tu peux nous dire qui est rentré la semaine dernière ?
Alors, la semaine dernière, il y a Le Train Sifflera Trois Fois qui est rentré à la 11e place, voilà, aux portes du top 10. Voilà, on a Dieu seul le sait qui est arrivé à la 22e place. C'est tout ce qu'on a fait. On a parlé
non,
de.
Non. On a eu un film qui s'appelle en français Sueur Froide.
Oui, et mais tu sais, j'ai tellement pas l'habitude qu'il y ait des entrées haut dans le classement que j'ai tu sais, je suis parti du milieu et je suis descendu en fait. Erreur.
Donc Hitchcock qui n'est pas arrivé à battre les 7 samouraïs.
Voilà, mais effectivement, Sueur Froide. Qui de son petit nom Vertigo, attention, parce que visiblement certains ne sont pas forcément au courant de la traduction.
Mais moi j'avais complètement oublié. Hein,
j'ai entendu plutôt.
Donc dans cet épisode, alors les deux derniers épisodes étaient un peu longs, donc celui-là il sera un peu plus court, je préviens, parce que ma limite vocale va être très vite atteinte. Mais j'ai prévu quand même une liste pas piquée des hannetons. Est-ce que ça se dit ? Je sais même pas.
Oui, ça se dit, effectivement.
Ça se dit. Et je regarde juste en bas de la liste. Guerre épaisse, Ici impératrice, Le retour de la mouche et Ali Baba, les 42. Il y a des gens qui ont trouvé le moyen de m'envoyer des listes de films nuls.
Oui, alors et après, il faut qu'on les ait vus, quoi.
Ouais, il faut qu'on les ait vus. Exactement, je pourrais le mettre. Alors, téléporte-toi en décembre 2024.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? Alors, non, pas de politique dans ce podcast.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on va encore dissoudre en 2024 ?
Non.
Et je pense que la réponse est des gens la prochaine fois.
On va parler cinéma. Qu'est-ce qu'en termes de... Si on a le droit de faire des podcasts, qu'est-ce qu'on va faire ? On va classer dans le vent les films.
Oui.
Les blockbusters. Et donc, c'est une liste qui nous est envoyée par Gaëtan, qui l'a envoyée en plus le jour de mon anniversaire. Donc, c'est très gentil, il me souhaite un joyeux anniversaire.
Merci Gaëtan pour ta liste.
Et c'est une liste qu'il appelle « Liste dans le vent ».
D'accord.
Et on va classer, comme si vous étiez en 1954, vous graviez dans le vent les blockbusters de l'année.
Ok, c'est vraiment très conceptuel.
C'est conceptuel, mais tu vas comprendre tout de suite, tu vas comprendre tout de suite ce qu'il en est. Le premier film de sa liste, c'est « Le Comte de Monte Cristo ».
Ah,
c'est bon, tu l'as. Elle est bien. Hein.
Effectivement, c'est une excellente idée de liste parce que le Comte de Monte Cristo, il sort peut-être au moment où cet épisode sera publié, il sera déjà dans les salles en fait.
Je l'ai déjà vu.
Il était projeté à Cannes.
Écoute, je reviendrai après. Autant parler de celui-là d'abord pour pas mélanger.
Alors, l'astuce, c'est que moi, la version des années 50, je ne l'ai pas vue avec... C'est avec Jean Marais, hein, c'est ça ?
C'est celle avec Jean... Ah, merde ! Ouais, tu commences mal !
Eh oui, je ne l'ai pas vue.
Enfin, bien, je ne sais pas comment tu...
Oui, bien ou mal, je ne sais pas. Ou alors, si je l'ai vue, c'était vraiment du coin de l'œil à la dernière séance, mais je ne me rappelle pas l'avoir vue en entier, en tout cas.
Je crois que c'est plus facile. Ah bah, tu sais quoi, pour la peine, on va faire Le Comte de Monte Cristo version Depardieu.
Tu
t'en souviens ?
Ouais, celle-là je l'ai vue. Ouais.
Avec c'est qui faisait le méchant ? C'était Arditi. Il y avait Rochefort.
Oui. Il y avait Rochefort. Il y avait Orlena Mouti qui faisait Mercedes.
Orlena Mouti qui faisait Mercedes. Et tu sais quoi ? Je pense que c'est ma Mercedes de cœur.
Ah oui, je peux le comprendre. Ouais. Je peux le comprendre.
Et Gérard Depardieu, dont on peine à croire qu'il sort de prison quand même.
C'est ça, dont on peine à croire, ouais, qui fasse un Dantès, en tout cas, tel qu'on se l'imaginait, quoi.
Tu vois, la malnutrition de la prison, tu vois, il n'y avait pas encore la CG, il n'a pas... voilà. Donc c'est celui-là qui est réalisé par José Dayan, mais c'est en 4 épisodes, mais c'est pour la télé. Il y a eu Le Comte de Monte Cristo, ensuite, de 61, de Claude Autant-Lara, qui est le plus connu.
Ouais, qui est le plus connu, effectivement. Ouais.
Qui est le Monte Cristo américain avec... comment il s'appelle ? Ah putain, comment il s'appelait déjà ? Il y en avait
Le Monte Cristo américain...
Attends, faut que je regarde, parce que ça, je ne les connais pas par cœur. De Kevin Reynolds. avec Jim Caviezel avant qu'il tourne mal.
Ouais, ouais, oh la vache, oui.
Guy Pearce. Oh là là, ça a l'air.
Je m'en serais plus rappelé, mais effectivement. En plus, c'est à l'époque où Kevin Reynolds, il a disparu des circuits très peu de temps après, je crois, dans mon souvenir. Hein, c'était.
C'est pas lui qui a fait le dernier Kevin Costner.
Alors, le dernier Kevin Costner, c'est Kevin Costner qui l'a fait. Mais,
non, je sais, c'était plus.
Mais je crois qu'effectivement, il doit être un de ses tout derniers films, hein, son Monte Cristo, à mon avis.
Je sais pas, moi, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi la Kevin Reynolds exploitation.
Mais il a été il a un petit peu implosé à la suite de Waterworld, voilà quoi.
Qui n'a pas explosé à la suite de Waterworld.
Oui, c'est vrai. Qui n'a pas explosé à la suite de Waterworld.
Bon, écoute, tu me fous en l'air ma liste, mais alors le deuxième, je pense qu'on va y passer une heure.
Ok.
Donc, il y a eu Comte de Monte Cristo. Attends, on n'a même pas marqué Comte de Monte Cristo dans la liste de devoirs de vacances. Ouais. Moi, j'ai déjà vu. Tu t'imagines bien si j'étais confiant.
Oui, bah je vois bien. Il partait confiant, voilà.
Comte de Monte Cristo. Alors, je pense qu'il sera facilement disponible sous une forme ou une autre parce que. Parce qu'avec la proximité de l'autre, ça va.
C'est possible, je sais pas. Ouais.
Et je tiens à dire, le nouveau, clairement, ils se sont dit si on Batmanisait le Comte de Monte Cristo. Parce qu'on va le faire vivre dans une Batcave. Enfin, c'est un château, mais c'est une Batcave quand même. Et il va dire des trucs je suis le Comte de Monte Cristo. C'est sûr, genre, I'm the Batman, c'est vraiment ça. C'est genre. Et il dit des phrases du genre je suis la justice. Je suis la justice. Vraiment, c'est vraiment des phrases très Batman. J'ai trouvé ça divertissant, mais je trouve que Ninet est pas très convaincant en fait. Je trouve que Ninet, il a un truc d'âge qui fait que j'y crois pas en fait. Mais tous les autres comédiens sont vraiment super. À commencer par le méchant qui est joué par comment il s'appelle ? Laurent Lafitte.
Ah bah voilà, bah non mais tu m'as dit Comte de Monte Cristo avec Laurent Lafitte en méchant, mais pour moi c'est les films de l'année, c'est tout.
Et je crois qu'un des méchants est joué par le mec qui faisait Chico dans la bande à Edouard Baird.
Oh putain, oui, d'accord. Je me ramène des souvenirs.
J'ai oublié le nom de ce mec, mais à chaque fois je le vois, je fais ah
je
oui.
Je vois qui c'est, ouais.
Et le troisième larron, parce qu'ils sont trois dans la bande, je sais plus du tout qui c'est, mais voilà. Et Mercedes est joué par Anaïs de Moustier.
Ok, validé.
Alors, je préfère On est la Mouti, mais je trouve qu'On est la Mouti le porte mieux, c'est le poids des âges et tout. Il y a cette scène qui me... La fin de version TF1, mais encore, je l'ai encore... tu vois Depardieu qui batifole dans l'eau avec On est la Mouti, et lui, il fait déjà 250 kilos, quoi. Enfin, j'y croyais pas.
On y croyait moyen.
Ouais. Bon, désolé Depardieu. Mais de toute manière, c'est un téléfilm, donc on ne le classera pas. Deuxième film de cette liste, c'est Godzilla.
Ah bah... Alors, est-ce que je vous ai déjà parlé de ce podcast?
Non, alors là, par contre, actuellement, tu es obligé de faire...
D'en parler quand même.
Non, mais et surtout du new material, quoi. C'est genre, c'est comme, si tu faisais comme si tu faisais un stand-up.
C'est ça, que c'est comme j'ai pas le droit de ressortir les mêmes
blagues. Ah non, t'as pas le droit de ressortir les mêmes blagues. C'est... Putain, vache. Saviez-vous que Godzilla s'appelle Godzilla, en fait? Non, tu fais pas ça.
Ah putain. Ah, parce qu'on en a parlé pendant une heure et demie avec Martin, là. J'ai un peu épuisé le sujet. Non, mais Godzilla... Bah...
Non, mais ce que t'as dit avec Martin est moins bien que ce que tu vas dire ici.
Évidemment.
Tu lui dis pas des trucs intelligents avec Martin, de manière... Il comprendrait pas.
Non, c'est ça. Faut que je me mette à son niveau, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Non mais voilà, Godzilla effectivement, film de 1954 tout à fait, par Ishiro Honda, donc sorti au Japon sous la houlette de Toho, donc la même année que les 7 samouraïs. Voilà, il faut le rappeler, c'est comme l'année où Toho a failli disparaître de la carte cinéma parce qu'ils se sont engagés dans des budgets absolument colossaux et un peu inconnu. Et
alors, sachant donc, que Ishiro Honda est en plus un pote de Kurosawa, un pote intime de Kurosawa, c'est vraiment son meilleur pote. Et en fait, comme s'il s'était ligué pour se dire on va tuer le studio.
C'est un peu ça en fait, ce qui s'est passé. Et à tel point qu'effectivement, Ishiro Honda, quand il a arrêté la mise en scène, et quand il a voulu arrêter la mise en scène, en fait, la personne qui lui a dit mais non, mais t'arrêtes pas comme ça, continue de faire du cinéma, viens avec moi, bah, c'est Akira Kurosawa, et les derniers films d'Honda, ce sont des collaborations avec Kurosawa, quoi.
Alors, bon, c'est le premier film, et je pense que tout le monde l'a vu. On peut spoiler.
Ouais, bah après, je pense que tout le monde l'a vu, ou en tout cas, tout le monde connaît en tout cas le principe. Hein. Donc, nous sommes au Japon, 1954. Il y a un bateau de pêcheurs qui disparaît, puis un deuxième. On finit par retrouver les pêcheurs, mais pas le bateau. Irradiés et mourants, si ce n'est pas complètement mort pour la plupart d'entre eux. Et pas loin de la zone des événements, en fait, il y a une petite île où les pêcheurs ont une légende locale d'un monstre, en fait, qui reviendra à la surface pour se nourrir de temps en temps. Et le fait est que le monstre en question réapparaît, mais il ne s'arrête pas à la petite île, puisque la première rencontre se fait sur cette île, mais il va poursuivre son chemin jusqu'à aller piétiner Tokyo, quoi.
Je crois que tu as bien résumé le film. Ceci dit, c'est quand même, on est dans le template de Godzilla, du film de monstre. Et c'est pas du tout, si vous avez vu un film de monstre dans les 10 dernières, 20 dernières années, c'est très différent comme feeling. C'est-à-dire que on voit pas tant que ça le monstre que ça. Et on sent surtout la tension montée à travers les comédiens autour qui regardent des écrans ou regardent des radars. Et c'est eux qui sont les témoins de ça. Et c'est vraiment du bridge drama. C'est vraiment là que naît l'expression bridge drama. C'est-à-dire, les gens sont comme dans une soucoupe volante et ils sont dans la passerelle et ils regardent tout devant l'écran en se disant « Oh, regarde ce qui se passe ». Il y a beaucoup de choses comme ça. Et surtout, c'est la grande naissance des tokusatsu de Eiji Tsuburaya, c'est-à-dire Eiji Tsuburaya, donc c'est le créateur des effets spéciaux de Godzilla.
Oui, et d'ailleurs crédité même comme co-réalisateur, en fait, aux côtés d'Ishiro Honda. C'est comme ça que, à l'époque, en fait, la Toho va, on va dire, sacraliser cette formule d'avoir, en fait, les films à effets spéciaux, donc les tokusatsu, qui sont réalisés par deux têtes pensantes, une spécialisée dans les effets spéciaux et une spécialisée dans la direction de comédien, quoi.
Et un tokusatsu Kantoku, qui est le mec responsable des effets spéciaux. Et Jitsuburaya, qui va devenir ensuite très très connu, parce que il va créer son propre héros à lui, c'est-à-dire oui. Godzilla est un peu son héros, mais c'est pas sa créature, il n'est pas crédité en tant que créateur de Godzilla. Mais il va créer un empire grâce à un personnage qui s'appelle Ultraman.
Tout à fait.
Et Ultraman, dans lequel il va mettre beaucoup de ses propres valeurs, notamment chrétiennes, puisque...
Oui, notamment chrétiennes, tout à fait, ouais.
Et Eiji Tsuburaya était vraiment un dévot zélé, et c'est pour ça qu'il y a des scènes de crucifixion dans Ultra Seven et tout ça. C'était vraiment un truc très important, mais toujours le message positif, quoi. C'est pas Mel Gibson.
C'est pas effectivement un chrétien, la Mel Gibson, et c'est ce qu'on disait avec Martin, en fait, c'est que a priori le personnage dans lequel Eiji Tsuburaya a eu le plus de latitude pour injecter finalement cette conception du monde chrétienne, c'est à travers le personnage de Mothra, qui va arriver donc plus tard dans le lore Godzilla, dans les années 60. Mais effectivement, voilà, si on regarde le personnage de Mothra à travers ce prisme chrétien, notamment le film Mothra, voilà, c'est quelque chose que Tsuburaya va beaucoup investir de cette façon-là. Là, Godzilla, effectivement, ça va moins se voir, c'est plus laïque, quelque part, comme film. Mais t'as raison de dire que c'est aussi sa créature à lui, en fait. Entre Ishiro Oda, Eiji Tsuburaya et Tanaka, le producteur, en fait, c'est vraiment les trois papas. Désolé pour la manif pour tous, encore une fois. C'est vraiment les trois papas de Godzilla qui vont façonner le film. Et en fait, tout un genre. C'est-à-dire que des films avec des monstres géants, il y en avait déjà avant. Il y avait King Kong, notamment. King Kong sans qui Godzilla serait pas né, mais vraiment le film de Kaiju, le tokusatsu de Kaiju japonais va véritablement naître avec ce film là qui, sans faire de mauvais jeu de mots, a été un véritable raz-de-marée au moment de sa sortie, puisque voilà, le box-office, c'est un japonais sur 10 est allé voir Godzilla au cinéma au moment de sa sortie. Donc on compte même pas les ressorties et les choses comme ça, mais voilà, et ça a été un véritable phénomène, quoi.
Un vrai blockbuster.
Complètement, un vrai blockbuster.
Est-ce que le blockbuster serait pas quelque part né au Japon, finalement?
Bah, peut-être, écoute. Mais plus j'explore les Godzilla avec Martin, et plus il y a des fois, je me dis, effectivement, il y a beaucoup de choses que les
Japonais... De l'ordre de la recette, de l'ordre du rendez-vous...
Exactement, de l'ordre de l'exploitation aussi, parce que globalement, mais alors ça c'est un truc que les Japonais, en fait, on réalisait pas trop, nous, en Occident, mais les Japonais, quand ils avaient un truc d'exploitation qui marchait, mais ils y allaient pas avec le dos de la cuillère, hein, les Atoichi, etc., enfin voilà, c'est... et là c'est pareil, les Godzilla, à un moment donné, ça va cartonner, les mecs, ils vont littéralement épuiser le filon, mais ils vont mettre 20 ans pour y arriver, quoi.
Oui, alors oui, c'est vrai que Godzilla, alors on en a déjà parlé parce qu'on a évoqué certains Godzilla dans les classements des années précédentes, mais c'est vrai que c'est devenu un rendez-vous qui a un peu banalisé le monstre, dans le sens où là, il est authentiquement méchant.
Ah bah complètement, oui, parce que...
Et au fur et à mesure des années, il va devenir une espèce de...
L'ami des enfants, en fait.
Il va devenir l'ami des enfants, quand il y aura Minilla, et enfin voilà... le Kid Godzilla, qu'on peut appeler. Enfin, oui, voilà, ça devient une espèce de recette. Godzilla va devenir l'ami des enfants. Il y aura les poteaux. Et il y aura ensuite les films avec tous les poteaux. Voilà, c'est devenu un truc florissant. À tel point que ça en ferait presque oublier que le premier film est très très politique quand même.
Oui, et en fait, il y a quelque part, en fait, dans la conception que peut avoir le public de Godzilla, et je parle là pour le coup du public occidental principalement, la conception que peut avoir le public de Godzilla, en fait, quand on en parle, enfin en tout cas quand on évoque Godzilla, le premier film, finalement c'est davantage les images de ses suites, et encore pas de toutes ses suites, c'est-à-dire de certaines de ses suites, et notamment effectivement les suites de l'ère Showa, donc des années 60-70, qui vont revenir en tête et qui vont conditionner la réception qu'on peut avoir de ce premier film. Et à la manière de Rambo, en fait, de First Blood,
on se souvient plus, voilà, de Rambo qui utilise son arbalète,
c'est ça,
pour,
voilà,
shooter
Les communistes,
voilà, l'hélicoptère communiste gigantesque, voilà que...
C'est ça. Effectivement, beaucoup de gens, et c'était le cas. Alors aujourd'hui, je sais plus, parce la ferveur Rambo est un petit peu retombée, mais quand on était encore en plein dedans, ou quand c'était encore assez vivace, beaucoup de gens avaient une image du premier Rambo extrêmement négative à cause de ces deux suites qui, pour le coup, n'avaient rien à voir, en fait. Et là, Godzilla, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on évoque Godzilla, on pense au monstre en caoutchouc un petit peu absurde et sympathique, alors qu'effectivement, c'est un film extrêmement sombre, extrêmement politique, et qui aborde la question, bah, pour le coup, du traumatisme nucléaire, d'une façon assez tétanisante, en fait, assez tétanisante, puisque on va quand même avoir le récit de ces personnages qui sont face à une sorte de fatalité qu'ils ne comprennent pas, et sur laquelle pendant beaucoup de moments du film ils n'ont aucune prise, et qui vont être là, qui semblent condamnés finalement à être écrasés par ce monstre et par cette fatalité. Et ce qui est intéressant, c'est que la solution pour contrer Godzilla, et là à nouveau, quand on parle de films politiques, et c'est pareil, Ichiro Oda, donc le réalisateur du film, le réalisateur dramatique, on va dire, du film, pas le réalisateur des effets spéciaux, le réalisateur dramatique, en fait, quand tu reprends ce film-là, et quand tu reprends le reste de sa carrière, et quand tu reprends son amitié et son amitié Kurosawa, et les liens intellectuels qu'il avait avec Kurosawa, il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire qu'effectivement, il injecte quand même beaucoup de lui là-dedans, c'est-à-dire que, Ichiro Honda, il avait de la famille qui a vécu Hiroshima, il s'est rendu à Hiroshima quelques jours après le passage de la bombe, et il a vécu, enfin, lui-même était au front, hein, aussi, c'est aussi ça qu'il faut voir, de la même façon que beaucoup de cinéastes américains qui vont faire des films de guerre aux États-Unis.
Qui ont fait la guerre.
Et voilà, qui ont fait des films de guerre assez vindicatifs dans les années 50-60, sont des gens qui sont revenus changer du front, Littéralement, c'est voilà, c'est toute une génération qui a été un petit peu traumatisée.
Surtout traumatisée, et surtout le breaking point, c'est le moment où on a commencé à voir des films par des gens qui n'ont jamais fait la guerre.
Oui, et après voilà, mais voilà. Et après
là on est en plein dedans là.
Voilà. Mais là, effectivement, c'est une génération qui a fait la guerre. C'est une génération qui a perdu la guerre. Et ça, mine de rien, c'est un aspect hyper important dans le processus créatif et le regard qu'on peut avoir dessus. Et Godzilla est mu par malgré toutes les scènes de destruction, malgré toutes les scènes de désespoir. Moi je me souvenais plus, mais quand je l'ai revu pour Godzilla Final Podcast et tout, il y a quand même ces scènes où à un moment donné il y a cette femme qui a ses enfants dans la rue et tout s'écroule autour d'elle, et en fait, et puis elle prend ses enfants, puis elle fait ben on va partir rejoindre papa, et effectivement la seconde d'après elle finit écrabouillée, quoi. Et t'as plein de moments comme ça en fait de désespoir mais complet, désespoir qui en plus fonctionne d'autant mieux que la photographie en noir et blanc est assez ouf en fait. C'est pareil, c'est un truc qu'on oublie, mais visuellement c'est un film qui tire le meilleur parti de ce qu'il pouvait faire à l'époque, c'est-à-dire cette photographie en noir et blanc, les contraintes qu'ils avaient d'avoir un homme en costume, et du coup comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte que ça se voit pas trop, etc. Enfin, il y a vraiment un truc qui...
La notion des maquettes de ville.
Voilà, la notion des maquettes, le travail des équipes de Tsuburaya sur tout ce qui est maquettes, rapport d'échelle est absolument faramineux. Mais malgré toute cette noirceur qu'il y a dans ce Godzilla, voilà, c'est un film qui est profondément pacifiste et humaniste, parce que c'est un film qui littéralement va te montrer les forces d'autodéfense japonaises en action qui ne vont servir à rien. C'est-à-dire que voilà, tu vas voir les mecs qui vont balancer toutes leurs munitions, tous leurs missiles, etc., et qui vont être complètement inutiles dans le processus. Et ça rejoint vraiment l'état d'esprit japonais, surtout à cette époque-là. Alors aujourd'hui, ils sont plus tout à fait dans le même mood, hein, mais à l'époque, le pacifisme, c'est vraiment un truc qui est ancré profondément chez les Japonais, y compris dans les générations qui ont fait la guerre et qu'on pourrait penser au contraire assez réactionnaires. Vraiment, c'était quelque chose de très très important. Et deux, quand tu regardes effectivement la solution, comment est-ce qu'ils se débarrassent de Godzilla, donc c'est à travers l'invention du professeur Serizawa, donc l'Oxygen Destroyer. T'as tout un arc en fait sur le fait que ce scientifique... Donc déjà, c'est la science qui va triompher de Godzilla. C'était le compositeur Akira Ifukube qui disait, en fait, si on regarde bien Godzilla, c'est un personnage qui illustre l'inutilité de la guerre, parce que toutes les armes qu'on va utiliser contre lui vont se trouver être inutiles, en fait. Voilà, et on le voit là, en fait, ils envoient l'artillerie, ils envoient l'aviation, il n'y a rien qui marche, et c'est la science en fait qui triomphe de Godzilla. Mais à travers cette science, en fait, le personnage de Serizawa crée un dispositif qui en fait est limite plus dangereux que la bombe nucléaire elle-même, et en fait il ne l'utilise qu'à la seule condition de détruire le dispositif dans l'opération, c'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu sur l'arme qu'on va créer pour tuer Godzilla. N'est en réalité que... Enfin, Godzilla, en fait, finalement, ne serait qu'une étape pour une escalade vers un armement de plus en plus puissant et peut-être potentiellement de plus dangereux que Godzilla lui-même, en fait. Et c'est quelque chose qui ressort vraiment très très bien. Enfin, c'est même pas qu'une attention, c'est-à-dire que dans le film, c'est vraiment un truc qui est hyper important dans la construction entre les personnages, parce que t'as le professeur Yamane d'un côté, le professeur Serizawa de l'autre, qui ont le même but, mais pas forcément les mêmes méthodes. Et t'as vraiment tout ce questionnement-là, et Ichiro Honda disait que, en fait, lui, ce qui l'intéressait dans la séquence de fin, sur le moment où Godzilla meurt, c'est que le moment, finalement, il y ait une certaine tristesse, en fait, dans le fait que ils sont obligés de tuer Godzilla, et que, alors que finalement, voilà, il y a aucune sorte de triomphalisme à y trouver là-dedans, quoi.
Et en plus, et ça, c'est un point commun, hein, de... de Godzilla, de la modernisation de Godzilla et de l'ancienne, c'est que c'est un peu les essais nucléaires qui sont la conséquence de Godzilla.
Ah ben,
c'est-à-dire
oui.
que c'est la mutation, c'est l'impact de l'homme qui donne la colère de Godzilla.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, à tel point que, enfin, c'est dit textuellement hein, par le professeur Yamane à un moment donné dans le film où il dit qu'effectivement Godzilla c'est une espèce qui était en dormance et qui a été réveillée par les essais nucléaires. Et la séquence d'ouverture avec les bateaux fait un écho direct avec en fait des bateaux de pêcheurs qui ont été irradiés par les essais nucléaires américains la même année. C'est-à-dire que le film était en préparation depuis un certain temps. En fait, le producteur Tanaka avait dans l'idée de faire sa propre version de King Kong depuis un moment. Il trouvait pas forcément les bons angles et puis il avait plusieurs idées qui s'empilaient. Et puis il y a eu effectivement cet incident donc avec l'irradiation d'un bateau de pêcheurs par des essais nucléaires américains et qui a évidemment provoqué beaucoup d'émoi au Japon parce que ça rappelait quand même de très mauvais souvenirs. On est en 54 hein, donc on est quand même moins de 10 ans après Hiroshima et Nagasaki.
C'est déjà le too soon à l'époque. Hein.
Voilà, c'est vraiment too soon quoi. Et là ils se reprennent ça et ces pêcheurs irradiés en fait ont mis des mois à mourir. C'est-à-dire que l'événement a eu lieu je crois en mars. Le premier mort c'était quelque chose au mois de mai et ils sont morts. Enfin les morts se sont égrenés comme ça jusqu'au mois de novembre, tu vois. Donc c'est un truc très très présent dans l'opinion publique. Et Tanaka au moment où il développe le projet, il voit ça avec son scénariste et puis ils font mais voilà, ça va être notre point de départ. Et c'est dans le film, en fait. Donc, vraiment, l'écho, la conscience du nucléaire, elle est là. C'est même pas un doute, c'est même pas une interprétation. Parce que c'est pareil, j'avais lu des analyses, entre guillemets, de critiques de cinéma qui disaient que, finalement, est-ce qu'on n'avait pas projeté trop de choses sur le film Godzilla, a posteriori, etc., histoire de dire, en fait, le film est tout pourri, mais on lui donne la substance. En fait, non, pas du tout. Cette substance, elle est là vraiment, intentionnellement, dès le début, avec tous les enjeux que j'ai dit, donc les enjeux avec autour de on va créer une arme suprême, mais en réalité on crée une arme suprême, on ne veut pas l'utiliser et on préfère la détruire finalement que la donner aux mains des hommes, et tout le discours sur le nucléaire et le danger et il y a vraiment cette idée que le Godzilla n'est pas là pour que le Japon prenne une revanche sur ce qu'ils ont subi. Mais c'est au contraire une façon pour eux d'en parler et de dire, mais en fait, ce qu'on a vécu, il ne faut plus que personne ne le revive, quoi.
Tu sais quoi ? La première fois que j'ai vu Godzilla, ma version était un peu plus courte et il y avait Raymond Burr dedans.
Oui.
Et c'est vrai, hein, la première fois que je l'ai vu, c'était en diffusion télé.
Ouais, ouais.
Ils avaient foutu Raymond Burr, que vous connaissez peut-être pour son rôle dans Perry Mason. Et en fait, c'était une version déjà à l'époque, ils avaient remonté, ils avaient mis Raymond Burr dedans pour faire un lien avec l'Occident, quoi.
Ouais, complètement. Bah oui, c'est en fait quand ils ont négocié les droits d'exploitation de Godzilla pour le marché américain, en fait, ça a été négocié. Au début, c'est quelque chose qui va à nouveau changer et évoluer, mais au début, les Japonais l'ont fait un peu à la japonaise en disant bon, nous on sait pas bien faire. Bon, allez-y, on regarde vaguement, mais faites comme vous voulez, quoi. Et du coup, de fait, les Américains, en fait, ont pris le film, l'ont charcuté, ont rajouté des séquences avec des gaijin. Donc, effectivement, on a Raymond Burr qui est un personnage qui débarque dans l'histoire et qui va, en fait, comment dire ça ? Du coup, ils ont pas retourné de scène avec des monstres quoi que ce soit. En fait, ça va être un personnage qui va commenter l'action à destination du public américain. En fait, il a cette espèce de rôle où son personnage, voilà, il se trouve au Japon, puis en fait, en gros, il va servir de reporter pour les Américains. Et donc, tu vas voir quand même cet effet de film commenté on commente ce qu'on est en train de voir.
C'est un peu la tradition oral du film d'horreur, tu vois, le côté Orson Welles, genre le côté plutôt,
oui, oui.
Tu vois, genre le radiodrama. Oh ouais, là là, les extraterrestres débarquent. Tu vois, ouais, ce truc-là.
Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que, de toute façon, enfin, voilà, à moins de retourner les scènes avec, comme ils avaient pas envie, pas les moyens de retourner les scènes tokusatsu. En fait, le moyen le plus pratique de faire, c'était ça. C'était effectivement. Voilà. Et donc, du coup, ça donne un film qui est assez étrange. Surtout qu'en plus, on parle de ça. Enfin, il y a des dialogues qui sont changés. Il y a la musique qui est virée. Voilà. Alors,
il n'y a pas l'iconique. Il n'y a pas le thème.
Alors déjà, faut savoir que le thème d'Akira Ifukube, celui qu'on connaît aujourd'hui comme le thème de Godzilla, n'est pas présent dans le premier Godzilla. Il arrive en fait que dans King Kong contre Godzilla, en 1962. Le thème tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas présent.
J'étais persuadé qu'il était dedans, mais
non, en fait, il est pas dedans. Par contre, en gros, si tu veux, le thème tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel que tout le monde le connaît, qui l'est repris, en réalité, est un mélange entre le thème qu'on entend dans celui-ci et le thème dans King Kong contre Godzilla. Le truc, c'est que la partie King Kong contre Godzilla est aujourd'hui plus connue que la partie originale. Voilà. Mais c'est un mélange des deux. Mais toujours est-il que la musique d'Ifukube est assez phénoménale, en fait. Encore une fois, même si c'est pas le thème qu'on connaît le plus, il est quand même fabuleux. Les Américains, évidemment, ont viré le truc. Et il y a quand même cette idée que le film est effectivement plus proche, finalement, de... Enfin, tel que les Américains l'ont remonté, ils ont remonté une version qui est plus proche de certaines séries B que eux pouvaient faire, avec un côté un petit peu dédramatisé, que de la version d'Ichiro Honda, qui, pour le coup, encore une fois, est vraiment un film politique, un film chargé, un film extrêmement sombre, extrêmement noir.
Qui sera vraiment... ratiboisé dans la version US que j'ai vue.
Ouais, tout à fait.
Et les Américains, que tous les Américains ont vu. Hein, c'était vraiment la version de base.
C'était la version de base. Et voilà, et les Américains ont quand même beaucoup édulcoré cet aspect-là parce que, déjà, en fait, je pense que dans les producteurs, il y a peut-être un qui a compris que, en filigrane, les méchants de l'histoire, c'était un peu les Américains quand même. Puisque la bombe, tout ça. Tout simplement aussi parce que c'était jugé pas en adéquation avec les goûts du public américain, quoi. Tout simplement. Ils ne voulaient pas entendre ce genre d'histoire.
C'est ce qu'ils auront fait pour toute leur vie avec Power Ranger étant l'exemple le plus notable, où ils ont pris des séries très précises, genre Du Ranger, Die Ranger, et ils se sont dit on va garder les scènes d'action. Et puis, on va juste rajouter des scènes de sitcom au milieu avec 5 jeunes qu'on aura choisi.
Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça.
Et il aura fallu genre une vingtaine d'années pour que tout d'un coup, ils se mettent à faire des séquences eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire récupérer les costumes au Japon et faire des séquences sous la direction des réalisateurs japonais.
Ouais, non, mais c'est drôle parce que justement dans tous les changements, alors ils sont très nombreux les changements de la version américaine. Vous trouverez des sites qui vont vous les référencer, mais dans tous les changements qu'ils ont pu faire, celui qui m'éclate le plus, c'est quand même le changement final, c'est-à-dire que le dernier plan du Godzilla de Ichiro Honda, c'est le docteur Yamane en fait qui
survit.
Oui, voilà, exactement. Ouais. C'est celui qui survit avec son chapeau. Okay. C'est le docteur Yamane qui a le regard un peu perdu dans le vide et qui fait mais on s'est débarrassé de Godzilla, mais en réalité, si on continue à faire en gros, je me rappelle plus la phrase exacte, mais il dit en réalité, si on continue à faire n'importe quoi avec les armes nucléaires, c'est une certitude qu'on se fera attaquer de nouveau. Et dans la version américaine, en fait, le discours, toute référence à l'arme nucléaire disparaît de tout le film. Voilà, donc il n'y a pas de nucléaire. Le problème, c'est pas le nucléaire dans la version américaine. Et il dit juste sur un ton beaucoup moins pessimiste. La menace a disparu. Bon, faut faire attention, mais on a quand même gagné. Tu vois, il y a un côté
comme
ça.
Il est temps d'aller boire une bière.
Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et donc, c'est je pense que, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je pense que quand tu regardes la version américaine, c'est un peu ce qu'on appelle dénaturer une œuvre, hein, globalement.
Oui. Oh, écoute, tu sais quoi.
Globalement, on est là-dedans.
C'est aujourd'hui, ça serait fait avec une IA, et voilà.
Oui, c'est ça, aujourd'hui, ça serait fait avec
une IA. Est-ce que globalement, c'est un film que t'aimes bien?
Ah, mais c'est un film... C'est un film que j'adore parce que voilà.
Parce que tu peux peut-être trouver que King Kong versus Godzilla ou.
Non mais c'est pas mon Godzilla préféré de tous les temps.
Parce que c'est pas le plus fun déjà.
Bah, alors c'est pas le plus fun, mais alors globalement dans les Godzilla, enfin quoi que, je sais pas, dans les Godzilla que j'apprécie, c'est pas forcément les plus fun justement. Quoique il y a Invasion Planetix que j'aime au-delà de toute raison.
Invasion mais... Planetix, c'est lequel? C'est celui
avec le Lake Seijin en fait. Où ils vont sur la planète X, ils rencontrent Ghidorah, ils lui pètent la gueule et en fait tu comprends que les X et Jean, c'est des méchants, tout ça, enfin voilà.
Okay.
Celui-là, il est, j'aime beaucoup, mais c'est pas mon Godzilla préféré. Ceci dit, c'est un film que j'aime énormément parce que je consacrerais pas un podcast à Godzilla si c'est pas quelque chose qui m'avait quand même profondément marqué. Mais je trouve que il y a quand même quelque chose qui se joue là-dedans. Dans le récit, c'est-à-dire à la fois on l'a dit, le travail de Tsuburaya sur les maquettes, sur le costume, sur les échelles, enfin il y a des plans de destruction de Tokyo avec les flammes en troisième plan, Godzilla au deuxième plan et les immeubles au premier plan qui sont assez fabuleux en fait, et surtout quand tu remets dans le cadre des années 50, voilà. Et Tsuburaya il s'était fait la main. Il y a une anecdote là-dessus qui est assez drôle. Il s'était fait la main en réalité sur des films de guerre japonais. Donc son travail c'était simuler des bombardements, des dogfights, des choses comme ça. Et il y a notamment un film où il a recréé un bombardement de l'armée japonaise sur une base américaine. La légende veut que l'extrait du bombardement qu'il a filmé, qui pour le coup est effectivement très réussi, est arrivé jusqu'à un état-major américain et que ça a fait paniquer les généraux sur place, qu'ils ont réclamé de savoir d'où venait qui avait pris ces prises de vue, parce que ils avaient jamais vu un bombardement filmé comme ça et qu'en fait ils ont mis un certain temps avant de réaliser que c'était du cinéma. Bon, ça c'est la légende, on ne saura jamais trop ce qu'il en est, mais voilà, il s'était fait quand même la main là-dessus. Et donc il y avait ce soin, ce regard du type qui avait travailler sur des œuvres où le principe c'était quand même que ce soit le plus réaliste possible, et il met ça au service de Godzilla. Il met son sens de la destruction au service de Godzilla, et voilà, encore une fois il y a des séquences qui, je trouve, encore aujourd'hui sont vraiment hyper bien construites du point de vue effets spéciaux, quoi. Avec évidemment le recul que tu peux avoir, parce que oui, c'est moins convaincant que ce que tu peux avoir aujourd'hui, mais en termes de mise en scène, il y a quand même un truc qui fonctionne hyper bien. Et en parallèle, le regard que porte Honda sur ses personnages, sur le Japon de l'époque, sur la situation politique du Japon, on est en 54, c'est-à-dire qu'on est vraiment juste au moment où la tutelle des Américains est levée. Donc en fait, littéralement, c'est le moment où les Japonais se réapproprient leur propre pays. Et donc c'est vraiment un point de bascule hyper important pour le moment où
devient théoriquement une démocratie.
Voilà, c'est le moment effectivement où bascule dans la démocratie. Alors théoriquement, parce que voilà,
parce que il y aura encore de la présence américaine, mais c'est voilà. Le moment où MacArthur
du bagage,
voilà. Il se dit c'est bon, j'ai mené mon travail, il me reste d'autres guerres à faire.
C'est ça, voilà.
Et c'était un moment de dictature théorique, hein, au Japon, mais souvent on attribue ce moment de le boom économique japonais et le regain d'industriels japonais des années 60, 70 et 80 du Japon grâce au fait que MacArthur tout d'un coup a fait des réformes que n'importe quelle personne n'aurait pas pu faire en moment démocratique. Il avait dit bon, non, non. On interdit le droit de grève pendant 5 ans. Enfin, genre, il avait fait des mesures du genre radicales dans la société pour relancer le Japon. Et c'est un moment où c'est une espèce de moment de dictature démocratique, tu vois, parce que t'as été élu, le président a été élu aux États-Unis, donc c'est lui qui a décidé que MacArthur soit là. Et MacArthur, il applique un truc dictatorial, mais pour le bien du peuple. C'est vraiment un cas de figure assez unique dans l'histoire dans l'histoire du monde. Hein.
Dans l'histoire du monde, et effectivement, et d'ailleurs on va peut-être même étendre jusque là, mais si tu prends par exemple le personnage du colonel dans Akira, en réalité ce personnage là il a quelque chose de la gesture de MacArthur du Japon des années 50 en fait.
Puisque, oui, un petit peu, oui, clairement, ouais,
puisque clairement si vous vous souvenez bien de ce personnage dans Akira, alors c'est plus développé dans le manga que dans le film,
parce qu'il est présent dans tous les volumes, lui,
voilà, parce qu'il a une présence plus importante, puis surtout dans le manga t'as toute une t'as tout un arc qui n'est pas présent dans le film sur l'après Akira, en fait, sur comment est-ce qu'on comment est-ce que on revit après Akira. Donc on retombe à nouveau dans les mêmes obsessions que Godzilla, hein. Enfin, c'est comme quoi se prendre une bombe nucléaire sur la gueule, ça
post-apocalypse, ouais, tu vois,
voilà. Mais ce personnage là a quelque chose de MacArthur, dans le sens où le type, c'est quand même d'un point de vue des standards politiques européens, c'est quand même un proto-fasciste, mais avec un bon fond. Et il y a vraiment ce côté-là qui est assez intéressant. Parce
en se disant que je fais pas ça pour toute ma vie.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est effectivement des figures qu'on va retrouver dans la pop culture japonaise, et même dans leur rapport à la politique. Enfin, je veux dire, on parle de démocratie, mais en réalité, et j'en reviens, on retourne en boucle dessus, mais j'en reviens notamment à Kamen Rider Black Sun, qui te parle de façon extrêmement claire et extrêmement intelligente de tout ça. On parle de démocratie, mais en réalité, le Japon, depuis l'avènement de la démocratie en termes de système de vote, est quasiment piloté par un seul parti, en fait.
Ils ont un bipartisme, quand même.
Oui, ils ont un bipartisme,
mais en vrai, c'est un système parlementaire type qui ressemble un peu à celui anglais, mais c'est vraiment un truc très très à part, hein. Et il faut savoir si les gens sont désintéressés de la politique, d'aller voter tout ça en France, au Japon c'est 10 000 fois pire, pour eux c'est vraiment tous les mêmes. En l'occurrence,
c'est tous les mêmes,
c'est-à-dire c'est vraiment un bipartisme, et souvent ils sont assez interchangeables, quoi, c'est-à-dire Et puis ils ont pas de clivage gauche droite comme on pourrait avoir en France, aux États-Unis, quoi.
Je suis d'accord, il y a beaucoup plus de différence entre les républicains et les démocrates américains que entre les deux partis qui alternent le pouvoir au Japon, où d'ailleurs on se rend compte que globalement, en fait, certains membres ont fait leur début de carrière chez l'un et finissent chez l'autre.
Une société publicitaire, ça c'est incroyable, mais ça arrive qu'au Japon, une société publicitaire travaille sur la com de tout le monde, c'est-à-dire des mecs de telle partie et des mecs de telle partie, et ça leur pose aucun problème. C'est assez incroyable, mais ça n'arrive qu'au Japon.
On est dans cette période un peu qui est un peu particulière, parce qu'avec le recul, effectivement, la société japonaise va quand même se construire autour d'un certain autoritarisme, malgré tout, mais en même temps, on est ce moment où on se réapproprie son propre pays. Et c'est intéressant que Ichiro Honda va à ce moment-là, avec ce film-là, te parler du traumatisme de la bombe. Encore une fois, pas de façon vindicative, mais vraiment de façon humaniste. Vraiment, ce regard de se dire, en fait, le problème, c'est pas les Américains, qui sont complètement absents du film, hein, d'ailleurs. On pourrait se dire qu'effectivement, même si MacArthur était plus là, ils ont encore des bases dans tout le Japon, et notamment Okinawa. On aurait pu se dire, ils auraient pu inclure ce... Mais en fait, non, ils ont volontairement effacé toute présence américaine du film, pour dire qu'en fait, en réalité, le problème, c'est pas les Américains, c'est même pas tant Hiroshima en tant que tel, c'est vraiment, en fait, les conséquences, qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir annihiler, en une seconde, plusieurs dizaines de milliers de personnes, quoi. Qu'est-ce que ça fait, et qu'est-ce qu'on devrait en tirer comme leçon ?
Alors, on va le classer. Je pense qu'on va le classer, et je tiens à dire que Invasion Planétique, c'est Kaiju Daisenzo.
Oui, bah oui, tout à fait.
Okay, ouais, c'est celui-là. Enfin, genre, je m'y repère un peu au titre. Invasion Planétique, ça veut rien dire pour moi.
Invasion of Astro Monster chez les Américains.
Ouais. Oui, voilà. Si en plus Astro Monster. Ok, super. Il y a un comédien que j'adore en particulier dans ce film-là, c'est quand même celui qui fait Serizawa, parce que on va le revoir dans plein de films, en fait.
En fait, on va tous les revoir. Globalement,
lui, de ouf. Lui, il en fait plein.
Il en fait plein, puis en plus il a des rôles marrants, parce que dans Ibira, par exemple, c'est lui qui va faire le chef du Red Bamboo. Voilà. Assez drôle, quoi. Non, mais voilà, qui a un personnage assez drôle aussi, donc c'est tout à fait.
Et le plus génial, quand même, évidemment, de ce film-là, c'est Takashi Shimura. Takashi Shimura, qui est quand même un des trois comédiens fétiches de Kurosawa, puisqu'il a joué dans une vingtaine de films de Kurosawa, quand même.
Ouais, bah oui, bien
sûr. C'est lui que vous voyez dans Rashomon, c'est lui qui finit Rashomon sur tout le film. Vous le voyez dans Les Sept Samouraïs. Enfin, je veux dire. Et en plus, il a un bon goût pour le casting, tu vois.
Ah bah complètement. Bah c'est oui, puis encore une fois c'est pas un hasard. Enfin je veux dire voilà, c'est pas un hasard et
c'est des potes.
Là, quoi.
C'est des potes.
C'est des potes et même d'ailleurs le comment s'appelle Haruo Nakajima, donc l'acteur qui va incarner Godzilla en réalité, il a aussi débuté sa carrière chez Kurosawa. Donc voilà.
Voilà. C'est vrai qu'il y a un Godzilla attitré et il va rester au moins jusque il va aller jusqu'en Showa hein, le premier.
Il va pas terminer Showa.
Bah non.
Non parce que voilà, mais il va aller jusqu'à Megalon en fait. Donc jusqu'à 73. Donc en fait, il va s'arrêter juste avant les Mecha Godzilla.
Ouais. Bon, on va le classer Godzilla. Allez.
Ouais, Godzilla. Bah moi j'adore Godzilla. Que voulez-vous, c'est ainsi.
Ouais. Je pense que
Moi je le mettrai pas au-dessus du 7e saut. Je mettrai entre le 7e saut et
Scandale. Alors moi j'allais dire, je trouve que Scandale est plus fort.
OK.
Je pense que c'est juste les acteurs, c'est vraiment Scandale est vraiment incroyable.
OK, bah alors du coup entre
Est-ce que Shimomura, il a pas joué dans Scandale d'ailleurs, tiens.
C'est possible, attends.
Je pense qu'il a pu jouer dans Scandaleux.
Scandaleux, ouais. C'est possible. Bonne question. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier ça?
Il a joué dans Scandale. Ouais, il jouait l'avocat. Ouais,
mais...
évidemment.
Ah oui, non, mais voilà, il s'est failli.
Non, mais vraiment, c'est vraiment, il a la tête du personnage. Celui qu'on oublie, mais en fait, c'est un vrai bon comédien. C'est un comédien incroyable, hein, ce mec-là.
Ah bah oui, bien sûr, c'est un super comédien, ouais. Ouais.
Bon, ça te va entre Scandale et la nuit du chasseur?
Très bien, très bien. Okay. Godzilla à 10e place.
Godzilla. Qui se dit Godzilla. Et donc, si on en parle, c'est que cet été, on va, cet hiver, nous reviendrons sur le classement de Godzilla versus... Kong, le deuxième, là, enfin le deuxième film, ce qui est sorti cette année.
C'était quoi déjà son nom?
Fuck, I don't know.
C'était le Nouvel Empire, c'est ça?
I don't care.
Putain, non, mais surtout qu'en plus, il y a eu la planète des singes avec un nom où c'était aussi le nouveau quelque chose.
C'était le Kingdom of Planet of Apes.
Voilà, non, mais c'est
un moment donné. Ouais, mais quand tu le vois, tu comprends pourquoi il s'appelle Kingdom en fait.
Oui, non mais en plus, pour le coup, je l'ai pas encore vu, la planète des singes. Mais c'est juste pour dire, à un mois de différence, t'as deux blockbusters avec des singes qui portent quasiment des noms identiques.
Non, mais légitimement, Kingdom, il est pas mal. Hein.
Il paraît, ouais.
Je trouve que c'est la surprise chaque année, en fait. À chaque fois.
Je n'ai aucun problème à croire que c'est mieux que Godzilla X Kong. Voilà, j'ai vraiment aucun problème.
Ah, ça s'appelle trahi par les siens, mon pauvre loulou. Alors, écoute, bon, tu peux te douter qu'il y a un troisième film dans cette liste.
Oui, parce que c'est le principe de l'émission. Voilà.
Le troisième film de cette liste, alors je pense que tu l'as vu, mais pas sûr.
Écoute, vas-y, balance.
Tu sais ce qui sort en fin d'année dans les blockbusters de fin d'année là?
Alors.
Qu'est-ce qui sort de Ridley Scott?
Attends, mais il est mort Ridley Scott. Ah non, mais non, c'est Ridley Scott, par
contre. Le mec, il te sort une expertise de 30 minutes sur Godzilla. Et il est là, Ridley Scott, il est mort. Pas sympa pour Ridley.
Attends, Ridley. Non, son Napoléon est déjà sorti. C'est pas lui qui fait le Alien.
Non, il fait Gladiator 2.
Ah putain, c'est vrai.
Et donc, nous allons parler du film qui s'appelle Les Gladiateurs.
Les Gladiateurs. Alors attends, du coup, resitue-le-moi.
1954, Les Gladiateurs qui s'appelle en VO Demetrius and the Gladiators.
And the Gladiators.
Et c'est déjà la suite d'un film.
Ah ouais,
c'est la, ouais, la suite. Mais alors, t'es pas obligé de l'avoir vu, mais c'est la suite de La Tunique, qui s'appelle en VO genre The Cloth ou un truc genre The Robe, The Robe. Parce que The Robe est avec Richard Burton, et celui-là, en fait, c'est la suite puisque c'est son esclave, c'est l'esclave du mec qui joue Richard Burton, qui joue le héros. Et voilà, ça fait de Gladiator.
Demetrius, du coup.
Demetrius. Voilà. Je pense que tu l'as vu.
Oui, effectivement, j'ai vu, mais tu vois, je remettais pas complètement le nom parce que, mine de rien, les films de Gladiator, il y en a eu un certain nombre à une époque. Et c'est vrai que. Mais tu vois.
Alors, oui, il y en a un certain nombre, mais ceux-là, c'est les premiers en
Technicolor.
Ouais. En Technicolor. C'est vraiment ouais, ce genre. C'est celui qui se sont dit, ah, ça rend bien en Technicolor, là.
Effectivement, et il me semble que la tunique, je l'ai vue aussi en fait. Mais par contre, j'aurais jamais fait le lien entre les deux films, tu vois, spontanément. Spontanément, j'aurais jamais fait le lien entre les deux films. Les Gladiateurs, donc c'est effectivement l'arrivée du cinémascope, de la couleur, du Technicolor. Enfin, c'est le gros cinéma quelque part qui débarque. C'est pas le premier, mais voilà, c'est effectivement comme tu l'as dit, ça fait partie du moment où ils se disent bon, on va essayer d'envoyer la pâtée avec ce genre-là.
C'est un film de la Fox, vraiment grande période. Ça doit coûter beaucoup d'argent et ça en rapporte beaucoup aussi.
Oui, ça en rapporte.
C'est vraiment, c'est pour beaucoup, ça qu'il ouais. y en aura des milliers et des milliers d'autres quoi. Et alors, si tu veux une anecdote, The Robe, donc la tunique. En fait, celui-là était prévu avant. En fait, ils ont prévu de réaliser celui-là avant. Et ensuite, ils se sont dit, on devrait faire la préquelle, en fait. Et du coup, ils ont sorti The Robe avant, et celui-là, il sort juste après.
D'accord, ok. Tu vois, ok, en termes de planning, je ne savais pas.
Mais donc, c'est le Victor Mature donc, qui joue le rôle de Demetrius, comme tu l'as dit.
Ouais, tout à fait. Et oui, donc c'est Demetrius donc, qui est un esclave affranchi. Alors du coup, on spoil la tunique, en fait, quelque part. Hein. et qui, en fait, va croiser le... c'est Caligula, c'est ça, en fait. Il va croiser le chemin de Caligula qui... je me rappelle plus qui jouait Caligula, d'ailleurs. C'était...
C'est Jay Robinson.
C'est Jay Robinson. Jamais remis.
Et dans le rôle de Strabo... C'est Ernest Borgnine.
Ah oui, Ernest Borgnine. Oui, exact. Exact. Ouais, tout à fait. Et évidemment, Caligula, qui est un... Comment dire? Un personnage qui a quelques coups de sang. Voilà.
Ouais. il s'est dit, je vais tuer tous les chrétiens.
Voilà, il a un tempérament un petit peu...
Non, je schématise. Attention, si vous êtes des Caliguliens...
Oui, c'est ça. On ne veut pas perdre l'auditoire caligulien.
Voilà, ah oui, ouais, les caliguliens, faut pas.
Non, faut pas les fâcher.
Non, en plus, ils ont une fanbase très puissante, ils peuvent te harceler.
Voilà, c'est ça.
Là. Ils peuvent te harceler.
Non, ouais. Le ticket Caligula pour 2027, on n'a rien contre, hein, voilà.
Mais pas, en gros, le truc, si ça s'appelait The Robe, c'est que ça tourne autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le sanctuaire. Je sais pas si c'est le sanctuaire, mais en tout cas, du vêtement du Christ, en fait.
Oui, je crois que c'est le sanctuaire.
En fait, dans le premier, enfin, je sais pas si le sanctuaire, c'est peut-être le truc qu'il a recommandé, mais là, c'est la tunique, c'est vraiment le truc. Et en fait, c'est que c'est une relique de Jésus. Et en fait, ils essayent de le récupérer à tout prix. Genre, c'est vraiment le MacGuffin dans le premier. Dans celui-là, c'est vraiment un MacGuffin, en fait. Ils sont à la recherche de ce truc-là. Évidemment, il est toujours question de la foi. Est-ce qu'on a vu Ben-Hur?
Ben-Hur, oui. Là, on l'a vu 18e, enfin 19e maintenant.
Bon, il y a une tangente de tous ces films-là, c'est qu'il y a une espèce de... C'est pas que c'est l'époque, mais c'est qu'ils doivent se faire franchement très pro-chrétien.
Oui, ouais.
C'est-à-dire qu'à un moment, leur foi est remise en cause et à chaque fois, ils reviennent du bon côté du Christ. Ce qui est le cas de Ben-Hur, hein, c'est que Ben-Hur, à un moment, c'est lui qui va donner l'eau au Christ en personne, tu vois.
Ouais.
Et là, en gros, Ben-Hur va rejeter sa foi à un moment ou à un autre. Il va être mieux. C'est un arc de comédie musicale. C'est-à-dire, non, mais c'est vrai. C'est à un moment, il va s'asseoir, il va se dire, oh là là, mon Dieu, nanana. Il va rejeter le truc et ensuite il va récupérer. Il va ensuite récupérer le vêtement, la tenue magique. Il va pas la revêtir. Hein, c'est pas les chevaliers du Zodiac.
Et non, surtout ouais. Qu'en plus, la revêtir, ce serait sacrilège quand même, malgré
tout. Oui, bien sûr.
Donc voilà, c'est.
Et alors, par contre, je pense que je crois qu'il meurt à la fin. Enfin, il se fait arrêter. Comme le précédent, d'ailleurs, comme dans le précédent. Oui. C'était donc Richard Burton qui meurt. Et voilà, enfin, Richard Burton qui est le héros. Ça se finit jamais bien. C'est pas comme Ben-Hur. Non, Ben-Hur où il y a beaucoup d'espoir.
Ça se finit jamais bien. Il y a encore une fois ce côté sacrificiel. Mais ce qui est intéressant de ce que tu dis justement sur le côté qu'effectivement beaucoup de ces films-là sont très très pro-chrétiens au point d'en être presque prosélytes, c'est qu'il faut pas oublier que à ce moment-là on est en plein macartisme. Hein, 54. Globalement, c'est l'année où McCarthy est président de la commission McCarthy, et que justement il fait la traque au communisme, mais à travers le communisme fait aussi la traque
l'antichristianisme.
Voilà, l'antichristianisme. Enfin,
c'est-à-dire le genre
qui... il atteint aux valeurs américaines aussi.
Voilà, c'est si tu t'opposes à la chrétienté et au christianisme ou à la chrétienté, si tu t'opposes aux valeurs américaines, c'est que tu es communiste. Voilà, c'est un peu le schéma de l'époque.
Le schéma de l'époque. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Donc encore une fois, 54, c'est vraiment le pic, hein, du maccartisme. Donc qui a commencé avant et qui aura des traînées après. Mais là, on est vraiment dans le pic là. Et je pense qu'aussi le pouvoir financer des films comme ça. Donc Cinémascope, Technicolor, donc deux techniques qui coûtent cher, hein, globalement, deux techniques qui coûtent cher à mettre en œuvre, avec des milliers de figurants, ouais. Parce que les arènes de...
Oui, il n'y a pas de CG à l'époque, ouais.
Des gladiateurs, elles sont remplies de figurants. Enfin, hein, ouais. Voilà, c'est qu'à un moment donné, parce qu'évidemment, ils vont utiliser le format large et la couleur pour en mettre plein la vue, donc il va y avoir recours à beaucoup de plans larges, de plans à la grue, des choses comme ça, parce qu'à un moment donné, il faut donner de l'ampleur à la mise en scène, et t'as des moments où t'as vraiment des milliers de comédiens, etc. T'as des tas de décors qui sont parfois vraiment gigantesques, reconstitués en studio et tout. Enfin, c'est des films qui coûtent extrêmement cher. Donc du coup, globalement, même si effectivement c'est le film qui rapporte énormément d'argent aussi, voilà, c'est la logique, voilà. Il y a quand même un moment donné où les mecs ils savent que s'ils veulent que leur film qui coûte extrêmement cher ne passe pas sous les fourches codines, il va falloir à un moment donné trouver un truc un peu consensuel. Et je pense que le côté justement, le personnage qui soit résiste grâce à ses valeurs chrétiennes, ou soit est en chemin de rédemption ou de changement à travers la découverte ou la redécouverte des valeurs chrétiennes, c'est un moyen assez simple pour eux de faire un aspect consensuel qui va plaire à MacArthur, qui va plaire à la plupart des Américains, et qui en plus, dans le contexte, se justifie plutôt bien, puisqu'effectivement l'avènement du christianisme sous l'Empire romain, c'est une histoire qui passe de où globalement cette religion est passée d'une religion qui était chassée au nid jusqu'à avoir finalement un jour un empereur chrétien, quoi. Et donc tout cet arc là, tout s'y prête, en fait, tout se combine bien, et c'est aussi pour ça que justement c'est un aspect qui va être beaucoup qu'on va retrouver beaucoup dans les péplums de cette époque là et beaucoup moins dans les blocs plus tardifs. D'ailleurs, les péplums vont moins se faire par la suite, mais quand il va y avoir des résurgences des péplums par la suite, y compris Gladiator, finalement l'aspect chrétienté est quand même beaucoup moins prégnant qu'ici, quoi.
Est-ce que t'aimes ce film?
Écoute, alors moi, très honnêtement, j'ai de meilleurs souvenirs de La Tunique. J'ai de meilleurs souvenirs de lui. Peut-être aussi parce que le Richard Burton, je pense que ça doit jouer.
Et en sachant que Ernest Borgnine d'Amour, il fait un tout petit rôle. Mais faut savoir un truc, c'est que le réalisateur Delmer Daves est un mec qui a beaucoup fait tourner Ernest Borgnine à ses débuts. C'est un mec qui a... Alors, on n'a pas parlé du réal, mais le réal, c'est celui qui fait Free Ten to Yuma. Oui. Le western, en fait. C'est un mec qui est vraiment connu pour ses westerns. Broken Arrow aussi, qui est vraiment... Comment s'appelle Broken Arrow en français?
Pas le meilleur Travolta, mais bon.
La flèche brisée, tout simplement. Pas le meilleur Travolta non plus. The Hanging Tree, comment s'appelle The Hanging Tree en français? La colline des potences, voilà.
Ah, voilà. Ce qui est un
Gary Cooper.
Oui, et qui est une excellente traduction, pour le coup.
Oui, pour une fois, c'est bien.
La colline des potences, c'est de la vraie traduction agréable.
Et là, il a plusieurs comédiens qui fait beaucoup tourner à leur début, surtout, c'est Ernest Borgnine, George C. Scott et un certain Charles Bronson.
Ah, connais pas, inconnu bataillon.
Donc tu vois, il a eu du nez quand même. Mais là, tu sens que c'est vraiment un boulot de studio. Le mec, il fait du film noir, il fait des polars, il fait du western surtout. Et on lui dit, bon, bah écoute, tu vas nous faire Coast to Coast, tu vas nous faire... je crois même pas que c'est lui. C'est pas lui qui a fait la tunique, d'ailleurs.
Alors ça, honnêtement, je ne saurais pas te dire si c'est
lui. J'ai vérifié dans une seconde. Non, c'est pas, même pas lui. C'est Henry Koster. Donc, c'est, okay. Voilà, c'est ouais, même pas donc, lui. Donc, ouais, vraiment, vraiment c'est le Yes Man là-dessus. Là.
Mais surtout qu'en plus, si je me souviens bien, la tunique, il est sorti genre vraiment l'année d'avant. C'est-à-dire que je pense que les films, ils ont oui. vraiment fait à la chaîne, quoi.
Et c'était Coast to Coast. C'était ouais, c'est ça. Ça, quoi. Ouais, je pense que le truc, c'est que ce film se perd dans l'îlot de films de Gladiator, mais je pense que à ce moment-là, la formule n'est pas suffisamment débile pour. Enfin, tu vois, c'est pas Cléopâtre de Mankiewicz, quoi.
Oui.
Je crois qu'on a classé. Le moment où genre ils se disent, allez, plus on met d'argent sur l'écran, plus ça dure longtemps et mieux ça sera. Et ça marche pas ça. Comme ça le cinéma. Tu vois, Zack Snyder, ça marche pas comme ça.
Oh putain, tu sais qu'il a annoncé, les dates de sortie des versions longues de ces films que personne n'a vus.
Mais moi, je les ai vus.
Ah, moi aussi.
Et j'ai aucune envie de le voir.
Pareil.
Bon, peut-être on classe, hein, si tu veux.
Oui, on va le classer, mais effectivement, c'est vrai que le film, en fait, est vraiment un film de son époque, dans le sens où, effectivement, c'est du boulot de studio hyper appliqué. Il y a la séquence avec les tigres qui est assez cool, et du coup le parallèle avec Gladiator est intéressant puisque justement on retrouve un peu de les Gladiators dans le Gladiator de Ridley Scott sur ce genre de séquence, c'est vrai qu'il c'est pas celui qui a les séquences en tout cas les plus mémorables, je trouve, quoi. Et puis pareil, là, enfin, je trouve qu'il a un peu tendance à se perdre dans son scénario. Enfin, c'est moins bien tenu et moins bien construit que la tunique, parce qu'effectivement toutes ces espaces de course là qui course symbolique qui est entre le héros et Caligula. Alors le Caligula est assez drôle, hein. Je sais pas si tu te souviens bien, mais les moments de colère du Caligula dans les Gladiateurs, moi j'aime beaucoup parce qu'il vraiment il y va à fond la caisse, quoi. Le mec qui gueule sur tout le monde, il est abominable avec tout le monde. Je trouve ça assez drôle, mais il y a quand même, je trouve, un truc, c'est que ça manque un peu de trucs un peu original. Voilà, Ben-Hur, tout le monde va te parler de la course de char. Les Dix Commandements, tout le monde va te parler du passage de la mer, soit le passage du Mont Sinaï. Voilà, enfin, lui, je trouve qu'il lui manque vraiment la séquence qui va te sauter à la mémoire quand tu vas y repenser, quoi. Et je trouve que c'est un film qui effectivement est pas désagréable à regarder. En plus, comme tu l'as dit, dans mon souvenir, il dure pas 4 heures, contrairement aux autres.
Pas encore. Ils y arrivent.
Mais voilà, mais ça fait effectivement, enfin, je le rapprocherai plus finalement quelque part. De certains films d'aventure un peu pareil qui se faisaient à cette époque-là, mais avec un côté judéo-chrétien très marqué, quoi. Il y a un côté un peu comme ça, c'est OK, le truc est fait, ça se passe, c'est pas mal, mais c'est pas ultra mémorable, quoi.
Ouais. Allez, on va le classouiller. On va le classer.
Alors,
Je trouve que Ben-Hur est mieux.
Oui, je trouve que Ben-Hur est mieux, oui.
Genre Ben-Hur, même ne serait-ce que par achievement, par acting, par...
Oui, par contenu... Encore une fois, honnêtement, tu revois aujourd'hui la course de char dans Ben-Hur.
Oui.
Si vous avez aimé Fury Road, regardez Ben-Hur, quoi. J'ai envie de dire, Ben-Hur, quoi.
Face is pod racing.
Ouais. Elle fonctionne encore super bien, et il y a des trucs qui sont... qui sont encore hyper hyper efficaces aujourd'hui, quoi.
Je pense que les 10 commandements est meilleur encore.
Je préfère aussi les 10 commandements.
Et je crois que je préfère l'île au trésor.
Ouais, je pense que je regarderai plus facilement les Gladiateurs que l'île au trésor, personnellement. Je pense que l'île au trésor, à mon avis, je suis trop vieux pour le revoir. Ah, okay. Tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Et à l'abordage, alors?
Ouais, alors les deux, ça fait un moment que je les ai pas vus.
Bon, écoute, c'est quoi? Hop. Sous la Belle au bois dormant et au-dessus de okay. l'abordage.
Voilà, l'abordage, ça marche.
Et notre petit défi, c'est Les Gladiateurs.
Après, on ne pourra pas dire, mais Super Ciné Battle, on aime les films Les Gladiateurs.
Oui, on les aime, mais à la 29e place quand même.
Oui, ouais, fais ce qu'on peut.
Oui, voilà. Bah écoute, on va remercier Gaëtan.
Oui, merci Gaëtan pour ta liste.
Et je suis à ma limite vocale, mec. Ça y est, je sens que c'est. C'est comme l'autonomie de vol. Ouf, je sens que l'avion il déraille. Mais on a fait beaucoup de Godzilla, donc écoute.
On a fait beaucoup de Godzilla.
Et les gens seront contents.
Voilà, quand on fait beaucoup de Godzilla, généralement c'est que ça se passe bien.
Alors, fais-moi une reco.
Alors, je fais une reco qui est pas du tout d'actualité, qui est pas du tout originale non plus. Mais je ne prétends pas être ni à la mode ni original, donc voilà. Donc je suis à peu près cohérent avec moi-même.
T'es chaud, tout simplement. Oui,
alors, je tiens tout de suite à me désolidariser des actions extrémistes de prise d'otages de bâtiments d'autres chauves qui ont pu avoir lieu récemment. Not all chauves. S'il vous plaît, not all chauves.
Oui, c'est vrai.
Ne condamnez pas tous les chauves pour les actes répréhensibles d'une minorité. Voilà.
Bah écoute, vas-y, lance-toi dans ta reco et on verra si on te laisse la vie sauve.
C'est ça. Non, mais je me suis dit, par les temps qui courent, ça fait. Je vais recommander une série que. Véritablement feel good, mais au bon sens du terme. C'est la dernière série qui m'a fait un effet feel good comme ça. Voilà, c'est Ted Lasso, tout simplement. Donc, une série qu'on en parlait juste avant, mais que personne n'a vu parce que c'est une série Apple Plus et que visiblement personne ne regarde les séries Apple Plus.
Personne.
Et ce qui est un peu dommage parce qu'en fait, ils ont un très bon pool de séries, en fait. On le redit parce que, mais il y a la saison 2 de Severance qui va arriver et la saison 1 de Severance, c'est génial.
Voilà, c'est le top de ces 10 dernières années, mais, ouais. Mais l'avantage de ce fait, c'est que les gens te postent pas les gifs dans, oui. les deux minutes qui suivent.
Ça, tu peux savourer les épisodes sans avoir, oui, effectivement, sans avoir des relous.
C'est pas Succession, ouais. C'est pas Game of Thrones, c'est genre, tu peux le regarder à ton rythme, il n'y a pas de souci.
Ouais, exactement. Et donc oui, Ted Lasso, c'est je le recommande d'autant plus que c'est une série dont le sujet principal ne m'intéresse absolument pas, puisque c'est le football. Voilà, je n'aime pas le football en tant que sport, je n'aime pas le football en tant que spectacle. Voilà, et là, globalement les apports de la culture du football en Europe, c'est pas forcément le genre de choses que j'ai envie de retenir de la culture populaire. Mais c'est une série sur le football et en fait le c'est une série qui arrive à justement ne pas s'adresser qu'aux amateurs de football parce que en fait on va suivre un entraîneur de football américain, donc deux sports qui n'ont rien à voir, mais justement c'est le principe de la série, qui recrute, cet entraîneur de football américain qui recrutait pour coacher une équipe de la banlieue de Londres, et en fait t'apprends très vite que s'il est recruté c'est pour échouer. Parce que en fait, la propriétaire du club a hérité du club suite à son divorce et elle n'a qu'une seule obsession, c'est faire souffrir son ex-mari. Et dans les choses que son ex-mari aime plus que tout au monde, il y a son club de foot. Et elle se dit, en prenant ce type-là, il va faire de la merde parce qu'en plus il n'y connaît rien et du coup ça va détruire le club et ça va faire du mal à mon ex. L'astuce, c'est que Ted Lasso, donc le coach en question, va avoir une approche assez unique des choses et va en fait traiter les joueurs du club non pas comme des sportifs mais comme des êtres humains. Et ce qui va un peu faire toute la différence et c'est une série que je trouve vraiment vraiment super parce que enfin il y a un côté à la fois super positif et à la fois c'est pas nier, enfin tu vois je trouve qu'ils ont réussi à avoir vraiment tout pile le bon équilibre. Les acteurs sont tous exceptionnels. Le casting il est vraiment très très bien choisi. En plus comme c'est du foot en club, ils se font extrêmement plaisir parce que t'as des personnages et des acteurs de tous les horizons. T'as des Français, t'as des Hollandais, t'as des Africains, t'as des Américains. Enfin voilà, et ils s'amusent justement avec cette espèce de melting pot un peu improvisé. dans le casting, il y a des trucs assez fous. Le personnage de Roy Kent, donc, qui au début de la série est une ancienne gloire, en fait, un peu sur le déclin, en fait, de Manchester, qui se retrouve à terminer sa carrière là. Je pense que c'est un des personnages les plus drôles que j'ai vu de ces dernières années dans une série. L'interprétation de l'acteur, donc Brett Goldstein, est fabuleuse, et l'écriture du personnage, je trouve ça, mais c'est un personnage, si tu veux, dès qu'il arrive dans une scène, il ne faisait rien, il me faisait rire. Il y a un truc qui me parle énormément dans ce personnage, dans son rapport au monde, dans cette espèce de syndrome à la limite de l'autisme parfois qu'il a avec les autres et qu'il essaye de soigner, enfin voilà, il y a plein de moments comme ça où j'ai pris un énorme plaisir à regarder ça, alors que je m'y attendais pas. J'ai fini par le regarder parce que tout le monde m'en disait du bien, mais bon, je me méfie, tu sais, comme je suis toujours un peu méfiant de nature, mais en réalité j'ai passé un excellent moment. Il y a 3 saisons, c'est fini, c'est bouclé, il y a une vraie fin, Jason Sudeikis, je pense qu'il a trouvé le rôle de sa vie. Voilà, donc je ne peux que vous recommander à voir Ted Lasso. Surtout, je pense, si vous aimez pas le foot, parce qu'il y a des vraies, vraies, vraies très bonnes vannes sur le foot, et notamment pour moi qui suis fan de basket et donc qui en fait est plus affinité avec le sport américain de façon un peu étrange qu'avec le football. Il y a des vraies, vraies très, très bonnes vannes sur la différence entre le sport américain, le sport européen, et plein de petits détails comme ça qui font vraiment, vraiment mouche, quoi, quand tu sais les observer. Donc voilà, Ted Lasso, jetez-vous dessus.
Écoute, un jour, je vais l'avoir. Pour ma part, je vais recommander un jeu qui est sorti, et je vais vraiment voir cette série, je te le dis, mais c'est juste que je prends le temps.
Mais prends le temps, moi aussi j'ai mis des années avant de l'avoir, donc tu vois, voilà, prends le temps.
Pour ma part, j'ai joué à un jeu qui est sorti en 2021. T'imagines, c'était le Covid et tout, c'était une autre époque.
La vache.
Et c'est un jeu indé réalisé par des mecs de Byte Rockers. Et il vient de sortir sur Switch et PS5. T'imagines le temps qu'il a fallu. Message pour les mecs qui font Hades 2. Ne m'aidez pas autant de temps, sinon j'y jouerai jamais. Donc voilà. Et c'est un jeu qui s'appelle Insurmountable. Insurmontable. C'est un roguelite. Comme tu as l'habitude de dire, c'est-à-dire les niveaux sont générés plus ou moins aléatoirement suivant des critères bien établis, de grimpage de montagne.
D'accord.
Et c'est un jeu de stratégie, c'est-à-dire tu dois choisir quel endroit tu dois monter, parce que suivant le terrain, il y a des terrains qui utilisent plus d'énergie que d'autres, il y a des terrains genre tu sais que si tu montes trop haut, là, tu vas avoir l'oxygène qui va manquer, c'est un truc important. Dès que tu passes le cap des 6000 mètres, tu sais que tu vas utiliser beaucoup plus d'oxygène. Il y a des points où tu vois qu'il y a un item. Bon, est-ce que tu fais un détour pour prendre l'item? Est-ce que tu fais un détour pour faire la rencontre avec le personnage qui est là-bas? Si tu regardes en haut, c'est des petits hexagones, en fait.
Mais en fait, j'y avais joué à l'époque.
Ah, d'accord, ok.
Oui. Et en fait, tu vois, de la même façon qu'avec Vertigo et Surfroid, quand tu l'as prononcé à l'anglaise au début, j'ai pas reconnu, parce que pour moi c'est insurmontable le nom du jeu.
C'est insurmountable en VO, quoi.
Ouais, non, mais effectivement, j'avais joué à l'époque, tout à fait.
Et honnêtement, je trouve ça super, en fait. Je trouve ça assez accrocheur. Et je sais pas si. Parce que j'y ai joué à l'époque. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu fixé le jeu. Le jeu est gravé dans le marbre. Là, il y a plus de choses à changer. Et la mécanique est vraiment pas mal. Il y a une mécanique où tu récupères des perks qui te font, par exemple, tu t'entraînes, donc tu utilises moins d'énergie. T'as des perks qui te font utiliser mieux ton HP. Tu t'entraînes à marcher mieux sur la glace, mieux sur le rocher, mieux sur. Et donc, du coup, c'est vraiment passionnant, en fait. Et tu te surprends à faire des runs entiers où tu grimpes une montagne. Et j'aime bien aussi la notion que c'est pas que la montée, il faut aussi gérer la descente. C'est pas genre on te laisse en haut et tu dis ah bah voilà, t'as gagné. Non, non, en général, t'as un point vers le bas et il faut que tu ailles le rejoindre. Et y a un truc d'urgence qui est assez intéressant, parce que à la fin, t'as plus de vivres, t'as plus d'oxygène, t'as plus rien. Donc t'essayes de redescendre plus bas pour essayer de récupérer de l'oxygène sous les 5000 mètres. Mais c'est des sensations qu'on a déjà eues, toi et moi, quand on faisait de la montagne. Tu sais qu'il y a des moments où tu es dans la
tu sais, dans le moment où la météo est trop basse, trop mauvaise, et tu te dis, bah, soit je dash jusqu'au prochain gîte, soit je retourne en arrière. Enfin, tu te poses de ce genre de questions, et je trouve ça assez astucieux. Et en plus, c'est pas très cher, ça vaut 20 balles. Franchement, et il est sorti sur Switch, donc voilà. C'est vraiment, je trouve que c'est un jeu assez vraiment qui restitue bien le défi montagnard, et pas dans le sens youtubeur du terme, si je puis me permettre.
Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai que moi j'avais rejoué. Alors j'avais quelques problèmes, mais peut-être ça a été arrangé à l'époque avec la gestion des caméras. En fait, il y avait des moments où ça coinçait ou ça buguait. Enfin, t'arrivais pas toujours à voir l'angle que tu voulais.
Il y a toujours une impossibilité d'angle, mais qui est un peu logique. C'est-à-dire, tu peux pas voir exactement au-delà de là où tu es. C'est-à-dire, si t'étais un mec normal, tu pourrais pas voir à travers la montagne.
Mais il y a deux aspects que j'avais trouvé hyper intéressants. Le premier, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, une fois que t'arrivais au sommet, la toute première fois que t'arrives au sommet, que tu te rends compte que bah, t'as fait qu'une partie du chemin, ça, mine de rien, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Ça fonctionne hyper bien parce que justement, t'as tendance en fait à jouer la course au sommet, alors qu'en réalité, c'est qu'une étape du voyage. Et ça, c'est bien restitué. Et effectivement, aussi le côté de t'arrives au pied de la montagne et ce que tu penses être le chemin le plus lisible, en réalité, c'est pas celui-là. Enfin, il y a vraiment un côté de, on va vraiment découvrir la paroi, on va découvrir les accès, etc. Et on va essayer d'avoir cet équilibre entre ce que je projette de faire, ce que je peux faire et ce que je vais faire. Enfin, c'est vraiment les trois trucs. Voilà, tu cherchais son accès, ça fonctionne assez bien dans ce jeu-là. Ouais.
Bref, je vous le recommande, c'est vraiment pas mal. Et en plus, j'adore les bonnes mécaniques de grimpe. J'ai l'impression que la montagne revient un peu à la mode dans le jeu vidéo.
Oui, beaucoup. Ouais,
depuis Breath of the Wild, en fait, j'ai l'impression que tout le monde se pose la question de comment faire une bonne mécanique de grimpe. Je crois qu'il y avait le jeu par Dontnod aussi, tu sais, où tu grimpais. Ouais. Tu grimpes, j'ai oublié.
Oui, c'est... en plus, j'ai joué aussi.
Mountain, ça s'appelait Jusant.
Jusant, voilà, exactement, tout à fait.
Et ben Jusant, oui, voilà, Jusant qui était intéressant parce que c'était un point de vue action sur... c'est-à-dire, c'est à la fois un jeu d'action et un petit peu un puzzle game, en fait. C'est-à-dire, tu dois savoir où tu poses tes crochets pour t'avancer, pour avoir une chance d'avancer. C'est plutôt malin. J'aimais bien Jusant, en tout cas.
Ouais, c'était chouette, Jusant. Ouais.
Et en plus, il y avait la direction artistique qui faisait un peu post-Mobius, post-Miyazaki, un peu, tu vois, genre
complètement. Complètement. Ouais.
Donc voilà, double reco, Jusant aussi, surmontable. Et on continuera, puisque nous sommes, vous le savez, un podcast non officiellement sur la montagne. Dès qu'on peut parler de la montagne, on le fait.
Voilà, c'est un podcast cinéma, montagne, pas de politique.
Voilà,
c'est
pas de trois. Heureusement qu'on n'a pas de parler de politique. Hein.
Ouais, c'est vraiment les trois mamelles. Hein, c'est... Ouais.
On remercie tous ceux qui donnent sur patreon.com/RPU. Il était temps de les remercier après une heure et demie de podcast quand même. Et on vous remercie un peu de votre soutien. patreon.com/RPU. Et on vous dit. À très 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 bientôt. Ciao.
Ciao à tous, merci.
C'est bon, Amandine ?
Oui.
Ah,
J'attends pour une seconde,
mais oui, mais je l'entends bien.
Tu sais quoi ?
Ouais.
Je cherche un livre.
Tu cherches un livre ?
Ouais.
Ah, ben c'est quoi, on n'a pas de livre ici. J'attends juste qu'Amandine.
Oui, je. Ouais. T'inquiète. Mais y a pas une biographie d'Eric Ciotti qui traîne quelque part qu'elle peut récupérer ?
Eric Ciotti. Ah, mais Amandine est fan d'Eric Ciotti. Hein.
Ah, bah non, on est tous fans d'Eric Ciotti en ce moment.
Qu'est-ce que t'as dit, Amandine ?
Tu sais quoi, c'est mon type d'homme.
Vas-y, c'est mon type d'homme. En plus, tu remarques la proximité entre moi et Eric Ciotti.
Ah, c'est
Oui, non, mais c'est... Mais d'ailleurs, plus d'une fois, en fait. Hein. Je vous ai confondu.
Plus d'une fois. Genre, est-ce qu'on nous a déjà vu dans la même pièce? Je ne crois
non,
pas.
Non, non, je ne crois pas. Moi, pendant très longtemps, voilà, j'ai cru que vous étiez la même personne.
Ouais. Bon, allez, on se lance. Allez, on est prêt?
Ah, il faut j'étais prêt dans le ventre de ma mère.
Oh, putain, je sais. C'est bon.
Une production RPU.